Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast ? Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute.
Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vous écoutez, c'est creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un hors-série dans lequel on va pousser la réflexion un peu plus loin sur les affaires dont je vous parle d'habitude. J'ai envie de tester un nouveau concept pour lequel je vais interviewer des gens dont le métier se rapproche de tous ces sujets, le true crime, paranormal, etc. J'adore vous faire des épisodes pour vous raconter des affaires criminelles plus sordides les unes que les autres. J'adore me poser des questions sur celles-ci, sur les tenants, les aboutissants, râler sur comment elles finissent. Enfin, en particulier sur les peines que peuvent prendre certains meurtriers ou pas. Mais je trouve qu'il est grand temps d'aller fouiller encore plus. Et cette fois-ci, essayer de trouver des réponses à toutes ces questions et de comprendre. Ou pas d'ailleurs, on verra. C'est pourquoi... aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'ai pour invité Clémence, que vous avez sûrement déjà entendu sur mon Patreon, pour mon épisode sur l'affaire Dyatlov. Clémence est avocate pénaliste et elle va répondre à toutes mes questions super chiantes sur le sujet. Bonne chance à elle et bonjour Clémence, comment vas-tu ?
Hello Vanny, ça va très bien. Merci pour cette invitation, ça faisait un moment que on voulait faire un épisode ensemble sur tout ça parce que
oui.
On adore discuter, on adore faire des débats sur tes affaires. Notamment on a dit qu'on allait aller au Paul Cold Case à force.
Oui.
Donc c'est trop cool de pouvoir faire cet épisode avec toi, expliquer mon métier, peut-être... casser les préjugés, les fantasmes autour de ce métier, autour du droit et essayer de le rendre plus accessible, au commun, quoi. Voilà.
Trop bien. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. J'ai trop hâte. Ça me fait super plaisir d'avoir l'opportunité de pouvoir parler avec toi et de te poser des questions. Dans cette interview, je vais te poser des questions sur toi, ton métier, sur la justice française. Et puis après, on finira sur quelques questions à propos de la justice américaine, du système judiciaire américain, parce que j'en parle quand même beaucoup dans mes épisodes. Et d'ailleurs, je précise que mes questions, elles seront... très axé sur les affaires criminelles en particulier, vu que c'est d'elles que je parle d'habitude. Si vous écoutez mon podcast, vous m'entendez souvent dire « c'est n'importe quoi, 5 ans de prison pour avoir tué quelqu'un, ça fait aucun sens, la police a fait n'importe quoi, la justice aussi, j'ai plus confiance en personne ». Bref, on va revenir sur tout ça aujourd'hui avec Clémence et on finira par les questions des auditeurs. Donc Clémence, je te laisse la parole pour commencer. Tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton métier pour qu'on se mette dans le bain.
Très bien. Alors, donc, je m'appelle Clémence, comme tu l'as dit. Je suis avocate pénaliste à Paris depuis un peu plus de 2 ans. Donc, pénaliste, ça veut dire que je touche à tout ce qui est du domaine des infractions. Donc, ça va de la contravention, par exemple, le feu rouge grillé, l'alcool au volant, en passant par les délits, donc tout ce qui peut être des violences, etc., aux crimes, donc les meurtres, les viols.
Wow.
Voilà, ça fait un large panel. Malheureusement, j'aimerais bien que ce soit que des crimes. On adorerait tous ça, mais ça représente environ 5% du métier, 10% si on a un peu plus avancé dans la carrière et que voilà, on a assez reconnu pour les assises. Donc voilà, donc moi je suis spécialisée là-dedans. J'ai fait mes études essentiellement en droit pénal. J'avais fait un diplôme de spécialité en sciences pénales et criminologiques.
Trop bien.
Donc c'était un diplôme trop cool. On avait la médecine légale, on avait de la criminologie, on avait de la psychiatrie criminelle. Donc voilà, je me suis spécialisée comme ça. Et puis j'ai eu l'occasion de faire des beaux procès dans ma vie parce que j'avais beaucoup écrit sur le sujet du terrorisme islamiste au moment où il y avait l'émergence de l'État islamique. Et ça m'a permis notamment de travailler aux assises de Paris, donc avec les présidents, donc ceux qui jugent, pas les jurés, les juges professionnels. J'ai pu notamment travailler voilà sur des dossiers terroristes et après j'ai participé moi en tant qu'avocat au procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Voilà.
Ok, bah, c'est trop intéressant. On va parler de tout ça. Du coup, pour commencer, c'est combien d'années d'études pour être avocate pénaliste?
Alors, la base des études, il faut aller jusqu'au Master 1, sachant qu'il y a un projet de réforme pour que ce soit obligatoire en Master 2. En Master 1, on peut passer ce qu'on appelle le CRFPA, donc c'est ce qui permet d'accéder aux écoles du barreau, et ensuite de passer le CAPA, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, donc le diplôme qui fait qu'on est vraiment avocat. Moi, pour ma part, j'ai fait presque 8 ans d'études. J'ai fait jusqu'au master 2 en faculté. Après, j'ai pris un an. J'ai passé donc le CRFPA que j'ai eu du premier coup. Il y a un an et demi d'école. Et ensuite, il y a le petit délai entre le moment où on a le diplôme et le moment où soit on pose sa plaque, soit on est recruté par un cabinet. Parce que c'est deux conditions pour pouvoir prêter serment. Et donc, entrer officiellement dans la profession d'avocat et être avocat.
Ok, donc c'est assez long quand même.
Un peu, un peu beaucoup. Moi, j'ai commencé mes études à 18 ans et je suis devenue avocate à 26 ans.
Et du coup, pourquoi tu t'es devenue avocate? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier?
Alors, déjà, je suis arrivée totalement par hasard. Je savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Mes parents m'avaient orientée vers plutôt une filière scientifique à l'époque. C'est ce qui existait. Puis aujourd'hui, c'est là où on voit qu'on vieillit. Et puis, je savais pas trop. J'aimais bien les langues, j'aimais bien la culture. Enfin voilà, j'ai passé Sciences Po, mais au final, je suis très contente de pas l'avoir eu parce que je pense que ça ne m'aurait pas plu. C'est trop politique et peut-être un peu trop dans des idées préconçues. Et on m'avait dit, mais si tu as pas Sciences Po, qu'est-ce que tu fais? En fait, je savais pas du tout. Et on m'a dit, pourquoi tu mets pas droit? Ça pourrait te plaire. Et effectivement, la première année, bon, elle est assez générale. C'est pas vraiment du droit pur. Ça m'a pas mal plu. Et j'ai découvert le droit pénal en deuxième année. Et là, ça a été un peu la révélation. Sauf qu'à la base, je pensais rejoindre les forces de police. Sachant qu'aujourd'hui, je m'entends pas du tout avec eux. Mais je m'étais dit, ne meurs pas idiote. Va faire un stage dans un cabinet d'avocat pour être sûr. Et ça m'est tombé dessus comme une évidence. En fait, je pense profondément, ça c'est mon avis personnel, qu'on ne choisit pas ce métier. C'est lui qui nous choisit. Et en tout cas, pour ce qui est le pénal, parce que c'est quand même très particulier, je pense que si on y va, c'est qu'on a un peu des choses à réparer, des combats à mener, que peut-être on n'a pas mené pour nous, ou auxquels on a été sensibilisé dans sa vie. Et je pense également que pour bien défendre la souffrance humaine, puisque c'est ce qu'on fait au final, que nos clients soient auteurs ou victimes d'ailleurs, parce qu'il y a de la souffrance des deux côtés, il faut l'avoir soi-même expérimenté, et c'est un peu cathartique au final. Et mon premier stage, je me souviens que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je suis à ma place et je me sens utile. Et je suis tombée sur quelqu'un d'incroyable, qui est aujourd'hui devenu magistrat, comme quoi on peut passer de l'autre côté, et qui m'avait donné confiance en moi et qui m'avait dit, t'es compétente, continue, mais va au-delà. Tu seras une bonne avocate, mais il faut aller au-delà. Et en fait, de là, ça ne m'a plus quittée et je n'ai jamais remis en cause ce projet, même si c'est pas facile tous les jours.
Ok. Et du coup, il y a combien de branches? Genre, il y a combien de types d'avocats? Il y a le pénal, il y en a d'autres?
Alors, j'ai envie de te dire qu'il y a autant de types d'avocats que d'avocats. En réalité, il y a énormément de branches du droit. Bon, voilà, il y a le pénal, il y a le droit des affaires. Le droit des affaires se subdivise lui-même. T'as par exemple le droit des contrats, le droit de la propriété intellectuelle. T'as le droit civil, mais le droit civil, ça recouvre le droit de la famille, le droit des successions, les voies d'exécution. Par exemple, les voies d'exécution, c'est, tu sais, quand tu veux faire expulser quelqu'un, par exemple. T'as le droit social qui est le droit du travail, t'as le droit de la sécurité sociale, t'as le droit administratif qui fait les relations administration-administrée. Enfin voilà, t'as énormément de droits et t'as autant d'avocats au final que de façon d'exercer le droit. Moi, pour ma part, je suis essentiellement spécialisée en droit pénal. Je fais un peu aussi tout ce qui touche, à ce qu'on appelle le préjudice corporel. C'est, tu sais, les indemnisations en réparation des préjudices physiques ou moraux des victimes, parce que c'est obligé quelque part, c'est lié. Je peux faire un peu aussi troubles du voisinage, ce genre de choses, parce que ça peut vite basculer sur du pénal. Par exemple, un harcèlement entre voisins de ce type. Après, moi, j'estime que le droit est tellement compliqué. Il change tous les jours. Et en réalité, tous les jours, il faut le vérifier, qu'il vaut mieux être spécialisé dans une matière et bien la faire. Ouais. Parce qu'être généraliste, c'est compliqué.
C'est ça que j'allais te demander. Genre, est-ce que tu peux faire toi, en tant qu'avocate pénaliste, est-ce que toi, tu peux répondre à toutes les demandes qu'un client peut te faire, en fait?
Alors, sur le papier, oui.
Okay.
Mais j'ai un devoir de compétence. Et moi, clairement, je prends que les affaires que je sais que je vais pouvoir faire, si elles ne relèvent pas du pénal. Après, des fois, voilà, je travaille en collaboration avec des confrères où je sais qu'ils peuvent répondre à la question, qu'on peut faire le dossier à deux, je demande l'avis au client, etc. Mais moi, j'ai un devoir de compétence et j'ai pas envie d'engager ma responsabilité parce que c'est aussi une réalité aujourd'hui. Avant, l'avocat était un peu un notable, un intouchable. Aujourd'hui, les clients n'hésitent pas à t'attaquer devant le bâtonnier qui est un peu le dieu des avocats, quoi. Il faut faire attention.
Ah bah, tu fais bien de dire, de parler du bâtonnier parce que tu m'avais justement raconté deux anecdotes que j'avais trouvées super intéressantes. La première, c'était parce que tu avais dit le mot bâtonnier et je t'avais demandé ce que c'était. Je me souviens que je t'avais dit genre... Ah, bâtonnier, c'est chelou, on dirait c'est le mec qui reste dans un coin et si besoin, qui te tape dessus avec un bâton. Et tu m'avais raconté une histoire là-dessus. Si tu peux me la raconter, c'était la première anecdote. Et ensuite, il y avait la deuxième sur Marie-Antoinette et l'uniforme d'avocat.
Oui, c'est deux anecdotes intrinsèquement liées à l'histoire de la profession d'avocat. Alors, bâtonnier, ça vient du saint patron des avocats, Saint-Yves, qui avait un bâton et qui rendait la justice avec un bâton, etc. Et le bâtonnier, dans les cérémonies très officielles, on va dire, parce que non, il se balade pas avec son bâton tous les jours, a le bâton de Saint-Yves. Et effectivement, c'est pas très faux qu'il nous tape sur les doigts avec.
Ok.
Voilà. Mais ça vient de là. Et pour la robe d'avocat, alors en fait, la robe d'avocat, elle est héritée des ecclésiastiques, puisqu'il faut savoir que jusqu'à très récemment, en tout cas l'Ancien Régime, etc., les avocats n'avaient pas le droit d'être rémunérés pour leur travail. Donc c'était soit des ecclésiastiques, soit des nobles rentiers qui exerçaient cette profession, mais le plus souvent des ecclésiastiques. Donc notre robe est directement inspirée de la robe des moines au final.
Ouais.
C'est pour ça que traditionnellement, normalement, il y a 33 boutons qui étaient l'âge du Christ au moment de sa mort.
Ah ouais.
Voilà. Et on a, alors, sur l'épaule, deux bandes de tissu.
Ouais.
Où à la base, d'ailleurs, on accrochait une bourse pour être rémunéré par les clients avec ce qu'ils voulaient.
Tu l'as encore ?
Non, non, non.
Ah non, tu m'as dit à la base.
Ah bah autant te dire qu'elle ne serait pas remplie aujourd'hui.
T'as un petit TPE là qui prend les paiements sans contact sur ta robe.
Non plus, c'est virement. Et donc ces deux bandes de tissu, vous avez déjà dû le voir dans plein de films, il y a de la fourrure blanche au bout, qui était de l'hermine à l'origine. Là, souvent, c'est du synthétique ou du lapin. Et à Paris, on est les seuls à ne pas avoir donc cette bande de tissu qui s'appelle l'épitoge. Herminé. On a ce qu'on appelle une veuve. Et en fait, c'est parce que traditionnellement, on porte le deuil de l'avocat Malesherbes, qui était l'avocat du couple royal, donc Louis XIV et Marie-Antoinette, et qui a été exécuté à la Révolution pour avoir fait son travail d'avocat et les avoir défendus. Donc, traditionnellement, nous, on a ce qu'on appelle l'épitoge veuve ou décapité, voilà, comme vous préférez. Donc, on est très reconnaissable dans tous les barreaux, même en région parisienne. C'est parfois pas très positif, mais voilà, on est les seuls à avoir cette particularité-là.
Ok, bah, j'avais trouvé ça trop cool. Et du coup, comme t'as parlé d'argent, Je voulais savoir un peu comment ça marche, la rémunération d'un avocat. Parce que tout de suite, on va parler de fric, hein, forcément.
Le nerf de la guerre.
Je m'interroge sur la manière dont vous êtes payé. Par exemple, si vous acceptez un dossier et que vous défendez quelqu'un du début à la fin, est-ce que vous êtes payé à l'avance ou alors plutôt après, selon le verdict peut-être, ou peut-être que ça change rien du tout parce que vous faites votre taf au final. Que le client finisse en prison ou acquitté, c'est pareil. Voilà, dis-moi comment ça fonctionne un petit peu.
Alors, je vais te répondre en plusieurs points, mais d'abord, s'il vous plaît, je veux qu'on détruise ce mythe et ce fantasme que les avocats sont riches. En réalité, on est pauvres.
Ah,
il y a très très peu d'avocats riches et qui gagnent bien leur vie. Donc pour te répondre, déjà, il y a deux modes d'exercice du métier d'avocat. Soit on travaille dans un cabinet. Donc dans ce cas-là, on est sous le statut de la collaboration libérale. C'est-à-dire qu'on est libéral, on paye ses charges soi-même, mais le client principal est le cabinet. Dirons-nous.
Okay.
Et à ce titre, on touche ce qu'on appelle une rétrocession d'honoraires. On va dire, c'est un peu un salaire brut qu'on touche. Et d'ailleurs, on repaye nos charges dessus. Ou alors, il y a le mode d'exercice libéral individuel. C'est celui que je fais actuellement. Où là, c'est moi, je suis toute seule dans mon cabinet. Je gère mon cabinet, mes dossiers. Je travaille pour personne.
Okay.
Voilà. Pour te répondre, c'est extrêmement peu d'argent. En réalité. Donc, comme on l'a dit, on est à bac plus 7, bac plus 8 quand même quand on sort d'école. Dis-toi qu'à Paris, le minimum vient d'être augmenté. Il est à 3 500 € brut. Sachant que nous, nous payons toutes nos charges là-dessus. Ça veut dire l'URSSAF. Mmh. Ça veut dire notre équivalent qui s'appelle la CNBF, retraite et maladie, nos cotisations ordinales, nos impôts, etc. Donc, en réalité, on enlève entre 40 et 50% de cette somme.
Donc, vous gagnez 1 500
Donc,
euros.
Ça fait à peine plus qu'un SMIC.
Ouais.
À peine plus qu'un SMIC en devant vivre à Paris, se déplacer.
Voilà, il te reste 12 euros.
Souvent, avancer des frais pour le cabinet aussi. Il y a récemment donc l'Union des jeunes avocats, qui est un syndicat apolitique et indépendant donc qui défend les droits des jeunes avocats, qui a sorti une étude où ils ont recensé tous les minimums de collaboration, donc ça c'est la somme que je fais quand je travaille dans un cabinet,
ouais,
en France. Dis-toi qu'il y a des barreaux où, par exemple, ce minimum est à 1 600 € par exemple à Grasse, donc c'est quand même à côté de Nice, où la vie est plutôt chère, pour un temps plein. Donc ça fait 800-950 € net.
Eh ben,
pour 8 ans d'études, 7-8 ans d'études.
Faut ouvrir un voilà. Patreon.
C'est ça. Si tu savais, on n'a même pas le droit de cumuler une activité commerciale avec le métier d'avocat.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu m'avais dit. Ouais, vous n'avez pas le droit
Le seul truc qu'on peut faire en plus, c'est être agent immobilier, sauf si ça a changé entre-temps. On pouvait faire agent de sportif, mais je sais que récemment, la Cour de cassation est revenue là-dessus. Donc, est-ce qu'elle va inverser sa jurisprudence?
Attends, t'as dit agent de sportif?
Ouais.
Genre, que sportif? Genre, au hasard. Ouais. Allez, sportif.
Oui, c'est ça.
Ok.
Okay.
C'est ça. Et on peut être ce qu'on appelle mandataire judiciaire. Donc, en fait, c'est ceux, tu sais, qui gèrent les immeubles, par exemple, des gens qui sont placés en liquidation, ou, tu sais, les successions qui prennent du temps, ce genre de choses, quoi.
Okay.
C'est les seuls trucs qu'on peut cumuler, et les fonctions politiques avec la profession d'avocat. Donc, on est très limité pour mettre du beurre dans les pattes. Pour répondre à ta question, donc nous, pour être payés, il y a deux manières de faire. Soit on fonctionne au forfait, soit au temps passé. Donc le forfait, en fait, on va dire, voilà, vous me payez une somme de 2 000 €. Dans ces 2 000 €, je comprends récupérer le dossier, l'étudier, élaborer une stratégie, faire un rendez-vous avec vous, réunir vos éléments et venir le jour de l'audience, par exemple. Ça, c'est très difficile hein, à évaluer. On essaye d'évaluer ça en fonction de la difficulté qu'on voit à peu près du dossier, du temps que ça va prendre et de la situation financière du client. Mais ça arrive souvent qu'on doive demander un peu de raccord d'honoraires parce qu'on rentre plus dans nos frais. Clairement, quand on a passé 5 heures de plus sur le dossier, c'est plus possible. On travaille à perte. Et il y a des cas où on travaille au temps passé. Alors moi, je le fais très peu au pénal. C'est beaucoup dans les cabinets d'affaires. Ou tu sais, par exemple, ça va être 15 minutes le mail, 60 euros.
Ouais.
Ou par exemple, l'heure de travail sera facturée entre 200 et 800 euros, suivant la réputation de l'avocat.
Ok.
Donc voilà. Mais par contre, en France, on a une interdiction totale de travailler pro bono, c'est-à-dire qu'au résultat. on est obligé d'être payé par le client et pas de travailler en fonction de ce qui touchera à la fin de l'affaire, parce que on a dans notre serment une obligation d'indépendance vis-à-vis des intérêts du client. On a une obligation de moyens et pas de résultats. C'est-à-dire qu'on doit tout mettre en œuvre pour le défendre, bien sûr.
Ouais.
Mais quel que soit le résultat, on doit être payé pour cette mission-là. Et puis, il vaut mieux, parce que généralement, les clients ne te payent pas, c'est fini sans tôle. Voilà.
Ah ouais.
C'est pour ça que je me fais toujours payer avant l'audience.
Ok. Et du coup, il y a pas de prime, genre, ah, t'as travaillé sur une grosse affaire et tout. Genre, il n'y a pas de prime ou j'en sais rien, quoi, du coup.
Alors, dans les cabinets, si, ça peut exister des primes, des intéressements, ce genre de choses, enfin.
Ouais.
Même si la plupart du temps, c'est plutôt de l'exploitation. On va passer au cachet. Puisque, dis-toi qu'au cabinet, généralement, il faudra apporter 4 à 5 fois ce que tu leur coûtes, toi.
Okay.
Donc, on a le temps. Mais par contre, nous, on peut travailler au résultat dans le sens où, voilà, par exemple, demain, j'ai un client qui vient, je dis, voilà, moi, je vous demande 1 500 euros parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Par contre, vu que vous êtes victime et que vous allez avoir des dommages et intérêts, je vais prendre 10% des sommes. Voilà.
Ok. Et ce qui est chiant, c'est que... Enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est que tu m'as dit que vous ne pouvez pas vous faire de pub. Genre, par exemple, si vous connaissez Better Call Saul, de l'avocat là dans Breaking Bad.
Oui, les grandes pubs en 4x3 aux États-Unis,
voilà,
sur les interstates.
Ouais, ouais, les pubs à la télé, là, genre, appelez-moi, je vais résoudre tous vos problèmes. Genre, vous pouvez pas faire de pub du tout, genre.
Non, on a une interdiction totale de faire de la publicité.
Ok.
C'est dans notre déontologie. La seule chose qu'on peut faire, c'est voilà, avoir un site internet, comme moi j'ai, où on peut choisir, par exemple, une boîte, tu sais, qui remonte un petit peu ton site, qui fait en sorte qu'il ait une certaine visibilité. Bon, ça
ouais.
coûte de l'argent, mais ça te permet d'avoir des clients. On peut, voilà, faire des cartes de visite. On peut intervenir, par exemple, dans des podcasts, des émissions pour notre expertise ou en tant que voilà, que professionnel. Mais on n'a pas le droit de dire « je suis le meilleur avocat », etc. C'est interdit. C'est très, très... compliqué à l'heure actuelle.
Donc là, je peux pas dire si vous avez un problème, contactez Clémence.
Tu peux dire que je suis très compétente, et que je suis une bonne avocate. Non, en fait, aujourd'hui, ça devient très compliqué de jongler avec ça à l'heure des réseaux sociaux, parce que notamment, il y a beaucoup d'avocats qui ont des Twitter, des Instagram, des TikTok.
Mm.
Et on est vraiment à la limite, en fait, entre qu'est-ce qui est de la publicité, qu'est-ce qui est du conseil juridique. C'est un peu compliqué.
Après, vous avez le droit d'exister quand même.
Oui, mais dans certaines conditions. Donc, c'est un peu compliqué. Par exemple, voilà, on peut écrire dans des revues, aller sur des plateaux de télé, ou par exemple, il y a des avocats qui interviennent dans des émissions de radio de façon permanente.
Ouais, de la visibilité, quoi.
Mais on doit pas dire, venez voir mon cabinet, donnez-moi le dossier, etc. Ça, c'est interdit.
Ok. Ok, d'accord. Bon, t'as déjà un petit peu répondu à ma question, mais je me demandais, à l'époque où il y avait les condamnations à mort, si les avocats étaient payés quand même par le client, parce que j'imagine qu'il devait avoir un peu le seum de faire un chèque à son avocat avant d'aller se faire trancher le cou le lendemain matin. Mais après, ça changeait pas le fait qu'il avait quand même été défendu et qu'il, voilà, qu'il devait de l'argent. Mais tu m'as dit que les avocats étaient pas payés à l'époque, donc bon...
Si, attends, condamnation à mort, fin de la peine de mort, 1980. Donc...
Ah oui, c'est vrai que ça a duré longtemps. Si...
Alors
oui,
déjà,
c'est vrai,
sache
c'est vrai.
Que l'avocat assistait à l'exécution, c'était
ah,
une
oui.
obligation. Donc, je pense que tu pouvais faire signer jusqu'au dernier moment ton chèque. Blague à part, je pense que c'est la famille qui est réglée. Ou plus récemment, la plupart de nos clients, dans ces cas-là, sont à l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire, ils sont payés par l'État.
Ok.
Alors clairement... Ça aussi, je veux qu'on déconstruise le truc. Des fois, j'ai des clients qui disent « je vous réglerai grâce à l'aide juridictionnelle ». Ah bah, grand prince, franchement, c'est une misère. C'est-à-dire que, par exemple, une audience dans un dossier correctionnel, donc il faut quand même récupérer le dossier, l'étudier, rencontrer le client, faire les pièces, aller à l'audience, se défendre, etc. C'est 350 euros, en gros. Voilà. Qu'on divise par deux, parce qu'on doit quand même payer des charges là-dessus, à l'État.
Ah, bah merci beaucoup
Voilà, donc c'est des grands princes, l'État. Le plus, je crois, c'est quand on fait des assises, donc justement la juridiction qui juge les crimes et des instructions. Je crois que les assises, c'est quelque chose comme 4000 euros. En fait, c'est assez obscur, ça fonctionne avec des unités.
Mmh.
On a plus ou moins d'unités suivant les audiences, les procédures, les infractions.
C'est toujours obscur l'argent.
Oui, on ne sait jamais quand on est payé ni comment par l'État. Voilà.
Okay.
Mais je pense que, en tout cas, pour les derniers condamnés à mort, ils devaient être pour la plupart à l'aide juridictionnelle. Donc, et qu'ils ne sont morts pas, l'État allait nous payer, quoi.
Oui, et puis ils avaient toujours la petite bourse accrochée à la robe au cas où il avait un...
Non, on l'avait plus. Non, mais par contre, tu pouvais être en face du client devant l'échafaud en disant « Monsieur, les honoraires, attendez, monsieur le bourreau, il reste des sous à payer. » Voilà.
Ok. Bah, c'est très bizarre. Et puis, c'est un petit peu gênant parce que, enfin, s'il assiste à, c'est un peu, voilà, regarde. C'est de ta faute si je suis là. Enfin, pas de ta faute, mais voilà, on... je sais pas s'ils se regardaient dans les yeux.
Oui, alors, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'humanité, je fais ce métier par l'humanité, mais à un moment, il faut qu'on bouffe aussi, quoi, et qu'on paye un loyer. Et c'est très compliqué à faire comprendre aux clients, parce qu'ils se rendent pas compte de tout le travail intellectuel qu'il y a derrière, de recherche, de réflexion. Puis tu sais, quand un client t'appelle, il faut qu'en 5 minutes, tu aies identifié son problème, les infractions en cause, qu'est-ce qu'il risque, et pouvoir déjà lui apporter une réponse pour qu'il te prenne comme avocat. Donc il y a tout ce travail-là qui n'est pas vu, et par exemple, on va jamais aller contester les honoraires d'un médecin pour une consultation. Ah bah nous, on est toujours contestés. Moi, j'ai déjà dû vraiment m'écharper avec des clients à qui j'avais quand même sauvé les fesses, soit dit en passant, sur des factures à 300 euros. Donc, c'est vraiment un métier ingrat sur la question de l'argent. Et on est toujours vu, voilà, comme des riches qui prenons tout l'argent. Alors oui, il y a des confrères qui abusent, clairement. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit combien ils ont payé chez les confrères. Je me suis demandé si les feuilles sur lesquelles ils imprimaient le dossier étaient plaquées or. Mais il faut savoir que, voilà, moi, par exemple, quand je demande 1500 euros pour une procédure correctionnelle, j'ai que 750 euros dans la poche et c'est... des mois et des mois de travail.
Ouais, c'est... Putain, c'est abusé. Alors moi, j'avais une question. Je vais te dire ça à chaque question, hein, je crois. Quand on parle du monde de la justice, moi, quand je me suis posée pour écrire mes questions, je me suis dit, mais je pensais aux avocats et je me dis, mais les avocats, en fait, ça doit être les meilleures personnes de notre société. Ils lisent les lois, ils ont étudié des exemples sur des centaines d'années. C'est la justice, ils savent ce qui est juste. Ils doivent toujours penser au bon ou, enfin, tu vois. Donc voilà, je me disais, c'était des personnes justes, des personnes équilibrées, qui soutiennent l'égalité, fraternité, nanana. Et le troisième, j'ai oublié. Et, liberté. Et bah, du coup, ça voudrait dire que il y a aucun sexisme, par exemple, racisme, dans ce corps de métier. Du coup, je voulais avoir ta confirmation. Si c'était le cas ou pas, comment commencer un petit peu l'ambiance?
Alors, ce que tu dis, c'est dans l'absolu, et je vais te sortir une phrase qu'un prof me sortait tout le temps. C'est en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. C'est ce qu'on appelle l'utopie. Ça devrait être comme ça. Alors moi, je vais toujours te donner mon point de vue. Encore une fois, dans ce podcast, je ne parle que par rapport à moi, ce que j'ai vécu, ce que je pense. J'aime profondément mon métier. J'ai une passion pour ce métier, je me sens vivante quand je le fais. On vit des moments d'humanité magnifiques, comme terribles d'ailleurs, de tous les côtés. Pas forcément du côté qu'on pense. Et je me vois pas faire un autre métier, en fait. Parce que défendre, parce qu'aider, parce que c'est très particulier d'être avocat pénaliste. On est à la fois l'avocat, mais aussi le psy, l'assistante sociale un peu de nos clients. Ils nous confient leur vie, ils nous confient leurs souffrances, leurs espoirs, leurs tristesses. Et c'est à nous de gérer tout ça et de les aider, et de prendre les coups à leur place et de les porter. Mais j'ai eu une énorme déconvenue concernant l'exercice de la profession. C'est-à-dire pas la profession en elle-même, mais tout ce qu'il y a autour. Donc moi, par exemple, je suis quand même passée dans à peu près une dizaine de cabinets entre mes stages et voilà quand j'ai commencé à exercer. Ça s'est bien passé dans la moitié des cas. Et dans l'autre moitié, c'est un été en enfer. Et c'est quelque chose qui est tue. Et aujourd'hui, j'aimerais que la parole se libère sur ce point-là. Le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, ou la maltraitance psychologique, c'est quasi systématique dans ce métier. C'est-à-dire, dans 90% des cabinets, et je pèse mes mots, les avocats sont maltraités. Les avocats collaborateurs, ils sont payés une misère. Ils ont pas le droit à une vie personnelle. Ils ont pas le droit à la déconnexion. Ils sont traités mais comme des merdes. Et souvent, il y a du harcèlement qui se rajoute. Et c'est vraiment quelque chose de structurel, de conjoncturel à la profession. Moi, je le vois. Je t'ai dit, j'ai prêté serment il y a un peu plus de 2 ans. C'était le 3 février 2021. J'ai la moitié de mes potes d'école qui arrêtent le métier.
Ouais, tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient découragés.
Et l'autre moitié qui travaille en cabinet, clairement, moi, ils vont m'en vouloir. C'est un peu tous dépressifs. Enfin voilà, quand on prend des verres, tu vois, il y a un bar à côté de chez moi où je les invite souvent. À chaque fois, ils nous offrent des verres, le bar, tellement ils en ont marre d'avoir des avocats dépressifs, tu vois.
Ah oui.
Et c'est la réalité. Et c'est pour ça que je dis, faut arrêter les fantasmes sur les avocats puissants, les avocats qui ont de l'argent, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'avocats brillants, mais vraiment brillants et infiniment meilleurs que moi, qui sortent d'école. Et on est broyé par ce système, par la machine, par l'omerta. Parce qu'en 200 ans, personne n'a jamais parlé. Et on voit des carrières brisées. Et clairement, dans les 10 ans qui suivent la prestation de serment, presque 50% de la profession arrête, dont une majorité de femmes.
Ah oui.
Donc, il faudrait peut-être se poser la question. Et moi, quand j'ai prêté serment, on pensait tous qu'à la collaboration. On n'imaginait pas pouvoir poser sa plaque. Et même moi qui l'ai posée aujourd'hui, clairement, c'est pas facile. Je me verse pas tous les mois de salaire. Voilà, c'est dur.
Ouais.
Mais je vois de plus en plus de jeunes qui se mettent tout de suite à leur compte. Donc, il faut peut-être se poser des questions. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'à Paris, tu vois, dans d'autres barreaux, tu peux travailler avec... c'est ce qu'on appelle la commission d'office, dans un abus de langage. En fait, tu peux travailler en étant avocat de permanence. C'est-à-dire, par exemple, pendant 24 heures, tu vas te mettre à disposition de tous les gardes à vue de Paris, tu vois. On va t'appeler, s'il y en a un qui a pas d'avocat, et tu dis, bah oui, j'arrive, machin, je vais le défendre, il n'y a pas de souci. Ou tu peux te mettre à disposition, voilà, d'une audience où les gens sont jugés en comparution immédiate. Donc, tu sais, c'est jugement immédiat en sortie de garde à vue, généralement. Ou de permanence, par exemple, pour les mises en examen, c'est quand t'es présenté à un juge d'instruction. Voilà, ça te permet vraiment de faire un fond de roulement, de pouvoir vivre. Donc c'est pareil, toujours un paiement par l'État, c'est pas énorme, mais ça te permet d'assurer au moins 1 000-1 500 euros dans le mois, ce genre de choses. Ça, à Paris, on peut pas y accéder comme ça. Il faut passer un concours, il faut l'avoir, concours où ça bug à chaque fois, parce que c'est sur Internet, bref. Et tu l'auras, t'as une bonne réponse, tu le repasses. Donc, pour te dire, moi, je ne l'ai toujours pas eu. Ça fait 2 ans et demi que je le passe. Donc, voilà, c'est très compliqué. Et en fait, tout le monde ferme les yeux sur ça. Et cette profession doit changer. Et MeToo n'est clairement pas passé par elle. Il va falloir qu'il y ait un changement de conception. Parce que c'est plus possible d'entendre. Oui, mais moi, j'ai vécu ça et j'ai survécu et c'est bon, hein, t'en mourras pas. Ou, oui, mais parce qu'on a vécu ça, bah, on va le reproduire. Ou alors des gens qui disent, bon, bah, j'en suis sortie, j'en ai plus rien à faire, les autres, démerdez-vous, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et il faut que la profession change parce que moi, je vois que j'ai dans ma famille la génération derrière nous, donc, qui est aujourd'hui au lycée. Clairement, ils ne vivent pas pour travailler. Ils travaillent pour vivre. Donc, ils accepteront pas ça. Et moi, j'attends avec impatience qu'ils arrivent dans la profession parce qu'ils changeront les choses. Et là, on le voit, les cabinets commencent à être en crise de recrutement. Mais pourquoi? Parce qu'ils respectent pas les minimums, parce qu'on ne touche même pas un SMIC, parce qu'ils payent pas en temps et en heure et parce qu'ils maltraitent leurs collaborateurs. Il faut dire la réalité aussi. Et il faut aussi dire la réalité à tes auditeurs quand on va dans le cabinet de maître machin, grande star. Alors, pas tous, mais la plupart. Ben, c'est le stagiaire, c'est le petit collaborateur qui va traiter ton dossier et puis à l'arrache au dernier moment parce que ben, fallait travailler sur les dossiers qui étaient en retard. Et puis, en fait, le patron que tu pensais avoir embauché n'a jamais regardé le dossier, il va juste aller le plaider. Il aura lu la synthèse. Voilà. Donc, vraiment, il faut prendre conscience de ce mal-être dans la profession d'avocat, dont très peu de gens parlent. Il y a des initiatives un peu comme Balance ton cabinet d'avocat. Il y a un ou deux journalistes aussi qui s'intéressent un peu à ces questions-là et qui ont dénoncé récemment des confrères. Mais c'est encore trop l'omerta. Et l'ordre, clairement, est inactif sur cette question-là. Alors moi, je parle pour l'ordre des avocats de Paris. Je suis à Paris maintenant. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres ordres, mais je ne vois pas pourquoi ce serait sensiblement différent. Nous, notre ordre, j'ai quand même près de 34 000 avocats.
Ah oui, 34 000
On est 34 000 à Paris. Mais après, c'est toutes disciplines confondues.
Ah, c'est beaucoup.
Bah, par exemple, le barreau pénal est assez petit quand même. Moi, je connais pas mal de gens en peu de temps. Donc, et voilà, et l'ordre ne fait rien et la profession va mourir si elle n'évolue pas, en réalité. Parce que même moi, aujourd'hui, j'ai du mal à travailler en cabinet. J'en ai pas forcément l'envie. à cause de ces questions-là.
Ouais. Bah, il faut être, en gros, faut être préparé à ça, quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent aller dans cette branche, après, c'est un peu comme en médecine et tout, et c'est un peu le même délire. Hein. J'ai l'impression que dans tous les domaines.
Oui, mais dans le métier d'avocat, ce qui est particulier, c'est quand même on vit au cabinet, déjà. Et il y a vraiment cette omerta Enfin, comme je dis souvent à mes potes, on est obligé de présenter un casier vierge pour prêter serment, mais alors après c'est open bar quoi. Il y en a qui se confondent avec leurs clients, certains avocats, on le connaît, on sait leur nom parce que ça tourne, parce que le barreau est petit, il suffit de prendre un verre pour entendre qu'il y a du harcèlement chez un tel, et pourtant on fait rien. Et leur dit, mais moi je peux rien faire, on me saisit pas. Mais le problème c'est quand on me saisit, on n'a rien vu bouger. C'est des peines avec sursis. Qui sont même pas appliqués du coup, l'autre vit sa meilleure vie et puis il a détruit des jeunes et moi au final aujourd'hui j'exerce seule parce que ma première collaboration j'étais harcelée moralement et sexuellement et j'ai été traumatisée, j'ai fait un burn-out et pourtant déjà en stage on m'avait déjà dit si tu passes pas sous le bureau tu seras pas avocate.
Wow.
On m'avait déjà dit une autre fois t'es ni une avocate ni une femme, t'as intérêt à bien te taire sinon je te pourrirai dans la profession. Voilà, j'avais déjà rencontré ça pour dire que vraiment, c'est allé très loin pour que j'ai cette appréhension de retravailler en cabinet. Donc moi, je dis, s'il y a des jeunes qui veulent s'orienter vers le droit, qui t'écoutent ou qui sont en études, méfiez-vous parce que ce métier n'est que la passion qui vous maintient dedans. Si vous n'avez pas la passion, ne le faites pas. Parce qu'en réalité, c'est absolument pas ce qu'on vous a vendu, que ce soit sur les conditions de travail, sur la reconnaissance du métier ou d'un point de vue financier.
Vous avez entendu Clémence, vous êtes préparée. J'espère que ça va changer avec le temps, avec les nouvelles générations. Déjà, toi, t'en parles, c'est bien, c'est super important. Mais ouais, il faut clairement que ça change parce que sinon, ChatGPT va prendre le relais, quoi. Donc,
Non, ChatGPT ne prendra jamais le relais parce que. On est aussi beaucoup dans un métier de sensibilité, de sentir les choses, de...
Non, mais je rigole.
d'intuition. Mais il faut que nos instances ordinales prennent conscience que la société a changé et qu'ils doivent changer avec elles. Ça peut pas être le même exercice qu'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, déjà, les femmes, elles commençaient à peine à prêter serment et encore pour plaider, c'était compliqué. Voilà. Il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience aussi que, il y a toujours des inégalités, mais criantes. Entre les hommes et les femmes dans ce métier, on est payé 30% de moins. Il y a que, je crois que c'était 5 ou 8% d'associés femmes dans les cabinets.
Oui.
Voilà, il faut se poser ces questions-là et il faut arrêter de faire des jolis effets de manche en disant « Ah, mais on a créé telle commission pour ça, il faut pas souffrir, il faut parler. » Mais derrière, on voit que ceux qui parlent, il n'y a rien qui bouge et qu'en fait, on fait tout pour enterrer leur dossier. Donc maintenant, il va falloir que la profession se pose la question « Est-ce qu'on couvre nos brebis galeuses ?» Est-ce que vraiment on veut devenir une profession qui correspond à l'image qu'a certains d'une profession pourrie, clairement, il faut le dire. Ou alors est-ce qu'on s'assainit et qu'on rentre dans la transparence, dans la bienveillance et dans les nouveaux modes de travail aussi? Pourquoi on aurait besoin d'être de 8h à 23h sur sa chaise au bureau? Parce que je te le dis tout de suite, tu pars à 19h, on te demande si t'as pris ton après-midi. Alors post-Covid, du télétravail, etc. En fait, cette profession est surannée, elle est en haut de sa tour d'ivoire dans la poussière et... Il faut qu'elle se dépoussière rapidement. C'est mon point de vue et le point de vue de beaucoup de jeunes avocats qui malheureusement ne s'expriment pas parce qu'ils sont en cabinet et parce que la parole est tenue.
Ouais, je vois. Eh ben, je m'attendais pas à ce que ce soit si sombre. Je m'attendais pas à ça. Ce serait quoi, selon toi, les qualités qu'il faut avoir pour être un bon avocat?
Alors, moi, je te parle encore une fois pour ma spécialité parce que je n'ai pas exercé dans autre chose.
Ouais.
Il faut être profondément humain. Ça, c'est le plus important. Clairement, si vous voulez aller dans cette voie pour être riche, changez. Allez en droit des affaires. Voilà. Il faut être profondément humain. Il faut avoir une certaine psychologie. Parce que faut pas oublier non plus que le client peut être notre pire ennemi. Et il faut savoir démêler le vrai du faux, qu'il soit victime ou auteur. D'ailleurs, il y a des victimes qui nous mentent aussi. Hein. Il faut une vraie relation de confiance avec eux. Et pour ça, voilà, il faut cette humanité. Il faut cette intuition, quelque part. Il faut de l'abnégation aussi. Parce que c'est pas un métier qu'on laisse à la porte de chez soi quand on rentre. Il y a des dossiers qui nous poursuivent. Et puis, voilà, le client, lui, ne voit que son dossier Et c'est normal, il pense qu'on n'a que son dossier, il peut un peu voir harceler, etc. Donc il faut aussi avoir de la patience, de la pédagogie aussi pour expliquer comment ça va se passer, pourquoi ça se passe comme ça, quels sont les risques, parce que c'est aussi notre métier de parler des risques, des risques de classement sans suite, par exemple, des risques d'être condamné. Voilà, il faut avoir tout ça. Et puis je reprendrai une phrase d'une consoeur que j'aime beaucoup, qui me donnait des cours à l'école d'avocat. Alors clairement, l'école d'avocat ne sert à rien, mais il y a quelques cours qui étaient bien, où elle nous disait « c'est un métier où il faut aimer s'engueuler ». Et c'est vrai. Parce qu'en fait, on passe, je pense, 40% du temps à nous engueuler.
Okay.
Avec les clients, avec les juridictions, avec les magistrats. Déjà, rien que pour récupérer un dossier, des fois, ça fait... Là, tu vois, il y a un dossier que je peux récupérer, ça fait 8 mois. Ça devient compliqué. Et on passe 50% du temps à attendre. Attendre au téléphone, attendre en audience, et puis 10% à vraiment plaider, s'éclater, exercer, être vivant. Parce que la plaidoirie est très particulière. C'est un moment où on se dédouble quelque part. Et c'est le pire moment comme le meilleur moment de ta vie. C'est un shoot d'adrénaline incroyable et c'est les moments où je me suis sentie le plus vivante dans ma vie. Même pour des petites plaides. Mais voilà, ça c'est 5%, 10% du métier.
Ok. Je passe à un autre sujet. Est-ce que tu as déjà été en prison pour rendre visite, hein, bien sûr. Je te demande pas si tu as fait de la tôle. Mais est-ce que tu as déjà été en prison? Enfin, tu y vas souvent ou pas pour rencontrer des clients? Enfin, en général.
Alors, ça fait partie du métier. Moi, je n'ai pas de clients détenus actuellement. Donc, c'est souvent... Des gens qui ont été placés sous contrôle judiciaire ou qui ont juste été convoqués pour leur jugement. Maintenant, je suis allée en prison, notamment quand j'étais en master, également quand j'ai travaillé donc aux assises, ce dont je te parlais avec les présidents d'assises. On nous organisait un peu des visites avec le palais de justice, etc. Donc j'ai fait quelques prisons, notamment la maison d'arrêt qui est à Aix-en-Provence et la santé. Donc à Paris. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de prisons. Donc il y a les maisons d'arrêt où c'est tout ce qui est détention provisoire avant le jugement ou courte peine ou fin de peine. Où généralement aussi t'as des quartiers pour les mineurs ou des fois des semi-libertés. Tu sais, tu vas travailler la journée, le soir tu dors en prison. Y a donc les prisons, ce qu'on appelle prison. Donc là c'est un peu mélangé. Et tu as les centrales. Donc, tu avais les centres de détention, c'est les prisons, et les centrales. Et les centrales, en fait, c'est les prisons pour les plus longues peines. Donc, clairement, c'est les criminels graves, style Francis Holm, Guy Georges, et toute cette pléthore de serial killers.
Ok. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un qui a fait de la prison, il peut devenir avocat?
Non. Normalement, on doit présenter un casier vierge.
J'aime bien le « normalement ». Tout est possible.
Maintenant, non, parce que je pense à la possibilité d'effacement d'un casier. Mais alors, je sais pas si ça s'est déjà présenté le cas, parce que voilà, tout est opaque. Parce qu'on peut demander l'effacement de son casier, pour des peines, par exemple délictuelles ou quoi. Normalement, les peines restent même pour la justice. Donc, je me dis, dans l'absolu, je dirais non. Maintenant, peut-être qu'il y a des dispenses pour des petits délits mineurs.
D'accord.
Des choses comme ça, on a obtenu le relèvement.
Okay.
C'est une bonne question. Mais en fait, c'est tellement opaque. Les dossiers que tu présentes pour prêter serment, même, dites-moi, on en est encore au stade de présenter des attestations de moralité.
Okay.
Et généralement, c'est le cabinet qui t'embauche qui te l'a fait. Il faut en présenter deux.
Ok, d'accord.
Voilà.
Et je me doute de la réponse déjà, mais pourquoi on fait des prisons hommes et des prisons femmes? Parce que c'est pas très égalitaire au final, tu vois. Enfin, je me demande quand même si je sais.
Déjà, dans l'absolu, il vaut mieux éviter un enfermement entre hommes et femmes, pour des raisons évidentes, dirons-nous. Et puis, il y a aussi une énorme différence dans le quantum des hommes et des femmes incarcérés.
Ouais.
Je crois qu'on est entre 5 et 10 % de femmes incarcérés en France. Tout le reste, c'est des hommes.
Donc, 90% d'hommes.
90 ou 95. Je t'avoue que les derniers chiffres, je les ai pas eus. Mais voilà, il y a très peu de femmes incarcérées en France. Donc, pour des raisons évidentes, bah, on n'a pas les mêmes besoins. Et puis, voilà, on sait déjà qu'il y a des viols en prison entre personnes du même sexe. Donc, je te laisse imaginer si on mettait hommes et femmes ensemble. Ce serait un peu compliqué, je pense.
Ouais. Eh, c'est quand même ouf, hein, 95%. Enfin, je m'attendais pas à un chiffre...
Mais tu sais, moi, j'ai toujours trouvé un truc de discrimination de fou que je vais t'expliquer. Ouais. C'est qu'on parle toujours de crime passionnel pour l'homme. Parce que sa femme l'a trompé, parce qu'elle l'avait bafoué, parce qu'elle allait le quitter. Donc genre, un homme ne sait pas se contrôler et tue dans la passion. Par contre, une femme, on est toujours une perverse manipulatrice qui a tout étudié, qui a tout prévu. Et c'est là-dessus aussi qu'on est, tu sais, ce qu'on dit, les crimes de femmes, les empoisonneuses, ouais, par exemple. La préméditation, etc. Et tu vois, ce qui est fou, tu prends par exemple le cas de Jacqueline Sauvage. Ouais. Elle devait être condamnée. Parce que c'était pas de la légitime défense et c'était une hérésie de plaider ça. Bref, il y avait pas les conditions réunies. Par contre, on aurait pu demander de l'atténuation pour irresponsabilité.
Attends, tu peux rappeler un petit peu ce que c'est vite fait hein, l'affaire Jacqueline Sauvage pour ceux qui connaissent pas.
Jacqueline Sauvage, c'est une dame qui a été maltraitée pendant des dizaines d'années par son mari, tabassée. Il avait aussi violé ses filles. Et en fait, un jour. Après une dispute, mais pas sur l'instant T, elle a pris un fusil de chasse, elle l'a descendu. Donc, on pouvait pas plaider la légitime défense, parce que la légitime défense, il y a trois critères, c'est proportion dans la riposte, instantanée pour se défendre soi ou pour défendre autrui, d'un péril imminent.
Ok.
Oui, donc la légitime défense, c'est la seule solution pour se sauvegarder à l'instant T. Donc, ce n'était pas possible de plaider la légitime défense à ce moment-là parce que c'était pas à l'instant T des violences, dirons-nous. Par contre, moi, j'aurais plaidé dans ce dossier-là tout ce qui touche, voilà, à l'aliénation qu'on connaît parfaitement dans les cas de violence conjugale, quand on est soumis au mari, quand on a peur de lui. C'est de l'aliénation mentale, au final. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Et donc, sur l'altération du discernement, on n'aurait pas pu dire l'abolition. Alors, il y a deux termes, en fait. C'est les causes d'irresponsabilité pénale. L'abolition, c'est quand on n'avait plus du tout de discernement, c'est-à-dire de capacité de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on fait. Donc là, on n'est pas responsable pénalement. Bon, généralement, on va en HP. Et il y a ce qu'on appelle l'altération, c'est-à-dire qu'on était encore capable, mais plus dans les mêmes conditions que n'importe qui, dirons-nous. Et ça, c'est des causes d'atténuation des peines, par exemple. Et je trouve que dans le cas de Jacqueline Sauvage, on aurait dû vraiment voilà, jouer sur toute cette aliénation qu'elle a vécue pendant des années, sur cette peur, sur ce moment où on pète un câble, en fait, hein, tout simplement. Et je pense que ça aurait joué sur la peine. Et pourquoi je te parlais de ça? Parce que ça aurait été un homme... À la place de Jacqueline Sauvage, on aurait parlé de crime passionnel. Et crois-moi que le quantum n'aurait pas été 10 ans. Il aurait été moindre.
Elle a eu quoi comme peine? Enfin, pour rappel. Elle a eu 10 ans de...
10 ans, à l'époque. Elle a eu 10 ans et ensuite, elle avait été graciée.
De toute façon, dans les trucs hommes-femmes comme ça, dans la justice, il y a plein de nuances aussi, hein, dans des affaires, tu sais. Ah, mais c'est pas possible qu'elle ait fait ça. Tu sais, souvent dans les affaires à l'ancienne que je fais, c'est tout le temps. Non, mais ils croyaient pas que ça pouvait être elle, donc du coup, ils l'ont relâchée ou alors ils lui ont donné vraiment pas grand-chose parce qu'ils étaient pas vraiment sûrs. Enfin, tu vois.
Attends, il y a même pire. Il y avait une affaire à l'époque. C'était l'affaire Henriette Caillot. Qui avait tué un patron de journal, c'était la femme d'un politique qui était tout le temps dénigrée par ce journal. Elle l'avait reconnue, hein, qu'elle avait acheté l'arme, qu'elle était allée, qu'elle a pu tirer dessus. Mmh. Et ben, elle a été acquittée. Parce qu'on disait qu'elle était pas responsable, c'était pour défendre son mari. Tellement elle l'aimait, tellement elle était atteinte. Tu vois. Donc, il y a eu une jolie inversion aujourd'hui, on va dire. Mais, tu vois, mais il faut pas oublier que jusqu'à assez récemment, les femmes, on était des incapables au regard du droit, au même titre que les débiles mentaux, comme ils les appelaient, donc les gens atteints mentalement, et les mineurs. C'est pour ça qu'on dépendait de son mari.
Ouais, ouais. Bah, j'ai même entendu des comparaisons faites avec des vaches, hein. Tu sais, quand il y avait le droit de vote et tout, ils ont dit, bah, tu sais, ils ont vraiment dit, les mecs, bah oui, puis quoi encore, après on va faire voter les vaches.
Alors, à l'origine, dans le Code civil napoléonien, donc 1804, il y avait une phrase, je vais essayer de te la restituer telle qu'elle. C'était « La femme est donnée à l'homme comme les fruits de l'arbre fruitier lui appartiennent. » C'était quelque chose dans ce goût-là. Il y a donc obéissance. Tu dis « Ok ». Voilà, c'est ce genre de choses. C'est assez récent quand même hein, qu'on soit responsable, dirons-nous.
Excusez-nous d'exister.
Parce que n'oublie pas que jusqu'en dans les années 60, on n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire. Quand même, notre salaire était versé au mari qui allait le dépenser au bistrot du coin. Voilà.
Et encore, si on avait le droit de travailler, s'il nous laissait le droit d'aller travailler.
C'est ça.
Parce que, tu sais, on a des choses à faire à la maison, hein, à la cuisine, quand même.
Alors, généralement, t'avais le droit, quand même, hein. Il rapporte de la popote, c'est pas trop mal. Par contre, c'est moi qui dépense l'argent. Voilà.
Bah ouais, mais qui va s'occuper des gosses et de lui faire à manger pour quand il rentre?
Oh, bah, tu sais, hein, moi, par exemple, je viens des mines à l'origine, hein. Ma famille, on est du nord de la France. Clairement, les enfants s'occupaient tout seuls.
Ah d'accord.
On va dire. Où il y avait toujours un aîné qui s'occupait des autres. Enfin, voilà. Donc non, mais jusqu'à très récemment, on n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire. Jusqu'à très récemment, notre époux avait le droit d'ouvrir notre correspondance parce qu'apparemment, c'était pas assez clair de mettre Madame Machin sur l'enveloppe. Il avait le droit d'ouvrir.
Ouais. Ok.
Jusqu'dans les années 90. Le viol conjugal n'existait pas.
Ok.
Il y avait toujours le devoir conjugal.
Le devoir.
Donc, ça fait quoi? Ça fait depuis notre âge, hein, depuis un peu moins de 30 ans, que papa doit demander à maman pour, pour faire un câlin. Voilà. Donc, voilà, c'est les changements de société.
Et les pantalons, on a le droit d'en mettre depuis 2006.
2013, l'abrogation. À l'origine, on avait le droit de porter un pantalon si on tenait les rênes d'un cheval, si on avait un vélo, ou si on avait une dispense médicale. Voilà.
Si t'avais un vélo, mais que tu l'avais avec toi aussi.
Oui, tu le poussais, ton vélo.
C'est pas genre... Si, j'en ai un dans mon garage, hein, je vous promets.
Oui, mais tu pouvais ne pas monter dessus, juste pousser le vélo.
Ok.
Et là, c'était bon.
D'accord.
Ou tu tenais les rênes d'un cheval. Voilà, c'était... Donc, on a tout été dans l'illégalité, mesdames. Voilà, même nos parents nous ont mis dans l'illégalité depuis le plus jeune âge à la crèche. Voilà.
Putain, 2013.
Mais intéressez-vous... Alors, je vais me permettre de parler de cette ancienne avocate que j'adore, qui est devenue humoriste, qui s'appelle Caroline Vigneault. Elle est excellente. Elle a fait son dernier spectacle... qui s'appelait Croque la pomme, sur vraiment tout un côté très féministe, mais où on apprend beaucoup de choses, voilà, ces lois-là, quand est-ce que, par exemple, il y a des fonctions qui ont été ouvertes aux femmes, etc. Et allez voir, ça vous apprendra plein de trucs avec beaucoup d'humour. Et j'avoue que j'aime beaucoup son humour, notamment, elle a un sketch où elle parle de la façon dont on interroge les victimes de viol. Donc là, on reste sur notre question de différence homme-femme. Elle dit, j'aimerais bien qu'on les interroge comme les victimes de vol. Parce que vous savez que quand vous êtes victime de viol, on vous demande la longueur de votre jupe, comment vous êtes habillée, ce que vous aviez bu. Et ben, elle dit, j'aimerais bien qu'on interroge les victimes de vol, pareil, en disant, mais monsieur, franchement, costume trois pièces, attaché case, mais vous cherchez à travailler à la banque en jogging, vous ne ferez plus voler. Voilà. Vous voyez, elle est très bonne là-dessus et c'était une avocate vraiment excellente à l'époque où elle exerçait. Elle a été secrétaire de la conférence, donc c'est un des postes les plus prestigieux qui existent à Paris. La conférence, c'est un concours d'éloquence pour les jeunes avocats. Faut avoir moins de 50 barres. Et
50 barres. C'est quoi 50 barres?
50 barres. 5 ans d'exercice. Excuse-moi. Ah. J'ai oublié qu'il y avait des moldus. 5 ans d'exercice.
J'ai pas entendu 5 ans, j'ai entendu 50 barres. Je me suis dit 50 barres de quoi? De... J'ai pas compris.
Donc, moins de 5 ans de barres.
Okay.
Voilà. Ou je crois que c'est moins de 35 ans. Après, ils peuvent donner des dérogations si on est devenu avocat sur le tard, ce genre de choses. Et en fait, c'est 12 jeunes avocats qui sont élus par an à des postes, donc à l'issue d'un concours très sélectif où il y a 3 tours avec donc des discours, etc., d'une dizaine de minutes, des fois avec des positions imposées, des sujets imposés, des fois non. Et ces 12 secrétaires ont tous une fonction. Par exemple, il y en a un qui s'occupe de relations magistrat-avocat, un autre qui s'occupe du concours, un autre qui s'occupe de la conférence, etc. En fait, c'est un peu les superstars du barreau pendant un an. Et ça fait gagner 10-15 ans de carrière parce que on a une préférence sur tous les dossiers criminels de Paris pendant un an.
Trop bien.
Donc voilà, elle pesait dans le game, Caroline Vigneault.
Ok, ben je mettrai ça en description. J'espère que je vais pas oublier, mais je vais mettre ça en description comme ça vous pourrez retrouver facilement. Je voulais te demander si il y avait une différence entre les mots procès et jugement, juste comme ça.
Alors le procès, en fait, c'est l'audience, on va dire, pour faire simple. le moment où voilà, tout le monde parle, donc la juridiction de jugement demande à la personne de s'expliquer, écoute la victime, etc. Le procureur, donc qui est celui qui représente la société, qui demande les peines, voilà, bah, requérir. Mmh. Et ensuite, il y aura la plaidoirie des avocats, etc. Le jugement, c'est la décision qui est prise, en fait, qui est ensuite donnée aux parties.
Ok. Et est-ce que nous, gens lambda profanes, est-ce qu'on peut assister à un procès où c'est genre fermé et tout?
Alors,
genre...
le principe de la justice française, c'est qu'elle est publique. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Vous pouvez aller à n'importe quel procès. Sauf s'il y a un huis clos qui a été décidé. Donc, le huis clos, généralement, c'est quand il y avait des victimes mineures ou des fois dans des affaires de nature sexuelle. Donc, c'est soit opposé par la loi, soit demandé par les parties. Donc, dans ce cas-là, en fait, on appelle ça huis clos parce que les portes qu'il y a devant les salles d'audience s'appellent des huis. Donc, ils sont clos.
Okay.
Mais sinon, vous pouvez aller où vous voulez, à n'importe quelle audience. Alors, vous pouvez pas aller voir, par exemple, l'instruction, tout ça. Mais des audiences de jugement, il y a aucun problème. Vous pouvez y aller. Vous avez d'ailleurs des listes qui sont affichées par les greffes. Donc, vous pouvez savoir quel type d'affaire va être jugé, quel jour. Si vous voulez, vous pouvez vous faire une session d'assises. Donc, une session, c'est plusieurs affaires d'assises criminelles. Et il y a des gens qui font ça, d'ailleurs, tout le temps. On les croise tout le temps au palais de justice, un peu comme des fantômes qui hantent le palais. Et on les revoit tout le temps. C'est leur occupation. Au lieu de regarder les feux de l'amour, ils vont voir les assises. Voilà.
Mais c'est trop bien. Je savais pas qu'on pouvait assister à ça. Bah, écoutez.
Alors, maintenant, tu peux aussi ne pas te déplacer puisque avec la dernière réforme pour la confiance dans la justice, il y a
une chaîne Twitch,
une émission qui a été créée sur France TV qui s'appelle Justice en France, et en fait c'est des vraies affaires qui sont filmées,
okay.
Qui sont diffusées à la télé. Donc il y avait une session à Aix-en-Provence, je crois qu'il y a une session dans le nord de la France, à Lille je crois,
wow.
Qui est actuellement, donc ça va pas être triste à mon avis, parce que j'avais toujours une prof qui disait le nord c'est les mœurs, le sud c'est le banditisme, mais elle avait raison en réalité. après moi, voilà, cette émission me dérange un peu.
Ok.
Je suis un peu opposée au nom des principes du droit, notamment, de la présomption d'innocence, du respect de la vie privée, etc. Mais bon, ça existe. Vous pouvez regarder ça si vous voulez.
Ok. Là, je vais te poser la question qui revient tout le temps. Par exemple, là, quand j'ai fait un appel aux questions à te poser sur Instagram, c'est la question qui est le plus revenue parmi les auditeurs. C'est comment vous faites pour défendre des criminels? Et je comprends cette question, hein, mais il faut quand même éclaircir certains points parce que je crois qu'il y a des gens qui comprennent pas trop le métier d'avocat. Donc c'est pour ça aussi que je fais cet épisode et que il y a des nuances à expliquer pour répondre à cette question. Je te laisse faire.
C'est la question. Effectivement, c'est celle que je me prends à chaque repas de famille ou quand je rencontre des gens, ou quand je faisais des dates. moi j'estime que je peux tout défendre, mais pas n'importe comment.
Ouais.
C'est très différent. Déjà j'ai besoin d'une relation de confiance avec mon client. Donc moi, comme je dis toujours, je suis pas là pour vous juger, c'est pas mon rôle, j'en ai rien à faire. Je veux pouvoir défendre quelque chose en quoi je crois et qui est cohérent. Parce qu'au final, la justice ce n'est pas la vérité, il faut se retirer ça de la tête, c'est une vérité judiciaire. C'est-à-dire que la défense va présenter une version, c'est une victime, donc la partie civile va présenter une version. Le procureur ou l'avocat général, c'est la même personne, mais c'est aux assises qu'on appelle avocat général,
okay.
Va présenter sa version. Et en fait, au tribunal de trancher, quelle version est la plus plausible, la plus crédible, et sera donc la vérité judiciaire. Mais la vérité, en réalité, on ne l'a jamais. Par exemple, dans un viol, on n'était pas dans la chambre, c'est un viol conjugal, on n'était pas dans la rue... Voilà, c'est une vérité judiciaire. Donc moi, comme je dis toujours, si mon client me dit « ouais, je l'ai fait », dire « ok, vous l'avez fait, d'accord ». Par contre, moi, je vais pas dire « vous l'avez pas fait ». On va expliquer comment vous en êtes arrivé là, on va expliquer de quoi vous avez besoin pour vous remettre dans la société, etc. Mais je vais pas dire que vous l'avez pas fait.
Ouais.
Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Voilà, jusqu'ici, Dieu merci, j'ai jamais eu de clause de conscience à faire jouer. Mais c'est plus compliqué quand on a un dossier où on est vraiment partagé, où le client ne nous dit pas grand-chose. Parce qu'il y a des dossiers où on se dit, il y a vraiment moyen d'avoir une relaxe ou un acquittement. C'est la même chose, c'est juste que relaxe, c'est pour les délits. Mais je sens dans mon intime conviction que j'ai l'impression qu'il l'a fait quand même. Donc ça, c'est un peu compliqué.
Ouais, en gros, ça repose sur l'avocat s'il est...
Ah bah, chacun met sa déontologie là où il veut. Moi, je dis que mon métier s'arrête là où me regarder dans le miroir commence quelque part.
Ouais.
Je peux vraiment défendre n'importe qui. Hein. Même Salah Abdeslam, j'aurais pu le défendre, il n'y a aucun problème. Mais pas n'importe comment et en plaidant n'importe quoi. Moi, j'estime qu'il faut avoir une cohérence et je comprends la plupart des passages à l'acte au final parce que je suis intimement convaincue que tout le monde est capable de passer à l'acte dans certaines conditions, avec un certain enchaînement de faits. C'est pas pour autant qu'on doit exclure les gens de la société, c'est pour ça que je suis profondément opposée à la peine de mort. Et que j'estime par ailleurs que la prison n'est pas une solution parce que enfermer quelqu'un et jeter la clé n'a jamais rendu personne meilleur aux dernières nouvelles. Par contre, pour moi, on doit chercher dans le soin psychiatrique, on doit chercher dans l'accompagnement, dans une insertion qui ne s'est peut-être jamais faite dans la société aussi. Moi, j'ai par exemple eu le cas d'un jeune qui m'avait beaucoup touchée dans les banlieues. Voilà, je lui avais dit bah t'as fait quoi comme études, etc. Il m'avait dit bah je voulais faire Sciences Po et puis on m'avait dit que quelqu'un de la cité irait jamais à Sciences Po. Alors on m'a mis en, je crois que c'était CAP mécanique ou électrotechnique, un truc du genre. Puis bien sûr, bah il va laisser tomber. Et puis à un moment, bah faut aider maman parce qu'elle a pas assez d'argent, parce que papa est parti, parce qu'il y a pas assez d'aide, parce qu'il y a les frères, il y a les sœurs. Et puis on finit dans un trafic de stup et on n'a rien demandé à personne aussi. Voilà, il y a aussi toutes ces questions là où la société s'est désengagée, où il y a un système scolaire qui broie certains jeunes aussi, qui ne les encourage pas, qui ne les aide pas. Moi, je vois, j'ai des amis qui ont aujourd'hui des carrières qui en feraient rougir plus d'un. Pourtant, on leur avait dit qu'on allait les mettre en CAP esthétique, par exemple. Donc voilà, c'est aussi ces questions-là. Et moi, j'estime que chaque dossier ne se ressemble pas. Et c'est aussi mon combat d'obliger à l'individualisation, parce que ça fait partie des principes du pénal, l'individualisation de la peine, c'est-à-dire connaître le vécu de la personne, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle n'ait plus de dangerosité pénale. Voilà, c'est toutes ces questions-là au final. Et que la personne soit réinsérée dans la société, parce que ça la justice l'oublie beaucoup. Mais la fonction de la peine, certes, c'est l'amendement, c'est la rétribution, mais c'est aussi la réinsertion. Et actuellement, en l'état des choses dans les prisons, les gens devraient avoir accès au travail, devraient avoir accès, par exemple, à la scolarité, parce que beaucoup ont été en décrochage scolaire, ce qui permettrait de, à la sortie, trouver un emploi, être dans la société. Et actuellement, c'est pas possible. Par exemple, il y a des listes d'attente faramineuses pour un travail en prison, alors que c'est payé rien du tout. Pour rencontrer un psychiatre en prison ou un psychologue en moyenne, c'est entre 6 mois et 1 an d'attente. Pour se faire soigner chez le dentiste, c'est pareil. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là.
Ouais, c'est vrai que ça porte assez à confusion. Enfin, c'est un métier un peu chelou dans ce sens, c'est que les victimes ont des avocats pour défendre leurs droits et ça paraît naturel à tout le monde. Mais en face, il y a la team adverse, entre guillemets. Il y a la team, si je parle d'une affaire criminelle, des tueurs. Enfin, une affaire criminelle genre en mode il y a eu un meurtre. Il y a les tueurs en face et forcément, bah il y a des avocats aussi en face. Mais les gens comprennent pas comment un avocat, un jour, il est du côté des gentils, entre guillemets, et enfin des victimes. Et d'un côté, comme ça, il peut passer, parce que bah, on l'embauche du côté des méchants. Enfin, tu vois, et ils mettent toute leur énergie pour les faire gagner et obtenir bah, des bonnes choses, je dirais, pour leurs clients, quoi, tu vois.
Mais les avocats, on est des grands schizophrènes, Manu. Plus sérieusement, justement, moi, en ayant cette ligne de conduite-là, je reste cohérente, quel que soit le côté où je sois, en réalité. Quand déjà l'avocat de la victime, il y en a beaucoup qui se confondent avec des procureurs qui demandent des peines, mais c'est pas notre rôle. Nous, on est là pour faire entendre la voix de la victime, sa souffrance, les conséquences sur sa vie, et voilà, et dire il faut qu'il soit condamné pour telle et telle raison parce que le dossier est étayé pour telle et telle raison. Point. On ne demande pas de peine, etc. Mais il y a des avocats qui le font et qui se confondent avec des procureurs. J'ai envie de leur dire, chers confrères, il y a la passerelle, passez de l'autre côté, devenez procureur. C'est pas notre rôle. Ce n'est absolument pas notre rôle. Donc c'est en se tenant à cette ligne-là que quand on est en défense, moi je tape pas sur la victime non plus, hein, c'est pas mon rôle. Hein. Je défends mon client, j'explique son vécu, j'explique comment il en est arrivé là. C'est plus délicat quand, voilà, là par exemple j'ai le cas, j'ai un dossier où clairement pour moi... Elle a menti, la victime. Mais je vais pas l'accuser de but en blanc. Je vais dire, écoutez, ça c'est incohérent parce qu'on voit ça, parce qu'on voit ça. Ça c'est du parole contre parole, c'est corroboré par rien du tout, etc. Je ne tape pas sur la victime en faisant ça. Je pointe les failles du dossier parce que il faut savoir qu'il y a quand même deux principes qui sont à la base même de notre droit, qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut rappeler à la justice très souvent. C'est la présomption d'innocence et le fait que le doute doit toujours profiter à l'accusé. En fait, quand on est aux assises, on demande aux jurés de juger selon leur intime conviction et qu'il n'y ait pas de doute en réalité. Qu'ils ne condamnent pas dans le doute, c'est ça. Donc, quand on se tient à ces lignes-là, on peut très bien passer d'un côté et de l'autre. Et au final, comme je t'ai dit, je vois surtout des victimes des deux côtés en réalité. Je sais que ça peut choquer de dire ça, mais c'est souvent des vécus fracassés, des vécus de souffrance et un enchaînement de circonstances qui amène les auteurs à faire ça. Donc voilà, ou des problèmes psychiatriques aussi. Voilà, moi, ça m'est arrivé qu'une ou deux fois dans ma vie de me dire qu'il y a des gens que j'aurais pas pu défendre. Voilà.
Et c'est aussi, je trouve, le mot qui est choisi, genre défendre des criminels. Genre, en fait, je crois que souvent les gens ils comprennent pas. Tu sais, ça a double sens, ça pareil un peu à prendre la défense des actions du criminel. Genre, tu le défends. Non, c'est pas de sa faute. Enfin, tu vois, c'est un peu, alors que c'est pas ça du tout.
Non. Alors, c'est pas défendre un criminel. C'est défendre ses intérêts.
Oui, c'est ça.
C'est très différent. Mais comme il y a des confrères qui savent pas mettre la limite ou qui sont trop dans la chose, voilà. Mais moi, je suis très humaine. Enfin, il y a des affaires qui m'ont traumatisée ou j'y repense encore. Il y a des clients qui me touchent plus que d'autres aussi, il faut le dire. Hein. Mais voilà, on défend. J'avais un confrère qui avait parlé dans un podcast d'Europe 1 qui s'appelle Mon client et moi, qui est très intéressant d'ailleurs. J'invite tes auditeurs à aller l'écouter si ça les intéresse d'entendre des avocats parler de leur métier sur des notions du droit. Il disait, je défends des salauds, je défends pas des saloperies. C'est exactement ça, en réalité. On défend la personne, on défend ce qu'elle est, on défend l'individualisation, la personnalisation de la peine. On défend pas ce qu'il a fait. On va jamais les justifier ça. Comme les avocats au procès des attentats de Paris n'ont pas défendu les attentats islamistes, bien entendu que
ouais,
non.
Mais souvent, je crois que c'est ça que les gens ont en tête. Tu vois, grossièrement, ils se disent « Ah, t'es l'avocat du criminel, t'es un mauvais, quoi. »
Après, ça te permet de faire du tri. Ça te permet de faire du tri dans tes relations aussi, je te dirais. Parce que tu vois les gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont capables d'une réflexion, qui sont capables d'évolution aussi quand on leur explique la réalité du métier. Par exemple, moi, j'ai eu toujours le débat quand on sait que j'étais à ce procès des attentats de Paris. Ah, faudrait remettre la peine de mort. Moi, j'ai dit oui, mais le problème, c'est qu'en fait, ça leur donnait raison au final, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient atteindre notre société dans ses fondements mêmes. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus trop visible, mais on est quand même la patrie de la Révolution, la patrie des droits de l'homme, la patrie des Lumières.
Aussi, c'est visible hein, avec les manifs quand même.
On a vu que la liberté d'expression, c'était plus trop ça aujourd'hui. Mais traditionnellement, on est ce pays-là. On était un des précurseurs sur plein de droits au final. Et ils voulaient nous atteindre là-dedans. Ils ont dit, on veut atteindre vos valeurs occidentales, vos valeurs de société. Donc au final, ne pas offrir les mêmes garanties procédurales, un procès équitable, des droits de la défense, etc. à ces personnes qui étaient accusées, c'était leur donner raison. C'est-à-dire, vous avez eu raison, on se met à votre niveau de barbarie.
Ouais. Donc du coup, t'es pas pour la peine de mort.
Absolument pas. Parce que j'estime que... Alors déjà, je pourrais jamais être juge. Je le dis parce que quand on est avocat, on en vient à ne plus avoir de certitude sur rien du tout et on a beaucoup de mal à avoir une intime conviction. On a des pressentiments, mais jamais de conviction réelle. Et puis, qui on est pour dire la valeur d'une vie, d'un homme? Parce que comme je t'ai dit, en fait, il y a des dossiers qui peuvent se ressembler, mais aucun dossier n'est pareil, en réalité. Il y a toujours le vécu de la personne qui va rentrer en jeu, les circonstances, etc. Et aucun acte ne mérite la mort au final pour moi. Je pourrais jamais prendre cette décision de dire je t'exclus définitivement de la société parce que j'ai toujours l'espoir, sinon je ne ferais pas ce métier, que l'humain est rattrapable quelque part, même quand il commet des erreurs. Parce que si j'estimais que ce serait pas le cas, je serais procureur. Voilà.
Ok, on va en reparler. On va en reparler juste après parce qu'on va parler un peu plus des peines parce que ça m'intéresse. C'est une autre question gigantesque parce que tu dois m'entendre le dire hein, dans mes épisodes vu que tu m'écoutes.
Tu es mon podcast préféré. Je ne rate pas un épisode.
La question, tu sais très bien, c'est pourquoi les peines sont ridicules. Pourquoi est-ce que la prison à vie, donc la prison à perpétuité, elle n'est pas appliquée en France. Pourquoi, quand on tue quelqu'un, on a la chance de ressortir quelques années plus tard? Genre, pour moi, je ne dis pas que ça encourage à tuer plus, mais ça fait bizarre de se dire que tu vis dans un monde où tu peux tuer et c'est pas si réprimandé que ça, quoi. Tu vois, genre, tu peux faire des dingueries et tu ressors dans pas longtemps, voilà. Surtout quand tu sais qu'il y a des gens qui font des arnaques, des trucs pas si terribles que ça. Genre, il y a littéralement pas mort d'homme. Et les tueurs, les violeurs, etc., ils sortent en premier, ils sortent avant eux, genre. Ou alors, s'ils vont en prison, hein, bien sûr, hein, parce que souvent, ils y vont même pas. Mais voilà, genre, juste, j'ai deux exemples hein, d'affaires par rapport à ça, où c'est juste, c'est ridicule, en fait, c'est, ça fait aucun sens. Et au final, la justice, le côté juste, le côté, voilà, on met une peine, le truc symbolique, bah, au final, tuer, c'est pas si...
C'est ok.
C'est, ouais. Bon, allez, va faire un petit tour en prison, et puis on se redit à toutes, ok? Enfin, genre, je sais pas, c'est trop, trop bizarre.
Alors, déjà, je vais te dire un truc qui avait dit mon tout premier prof de droit. Ma première heure de droit de ma vie, il avait dit « Si vous êtes en droit pour faire ce qui est juste, vous pouvez prendre la porte. Le droit, ce n'est pas ce qui est juste. » Bon, alors moi, j'ai un peu l'esprit de contradiction, c'est pour ça que je suis devenue avocat. Voilà, pour amener un peu de justice dans l'affaire. Alors, tu as un peu déroulé tous les clichés, effectivement. Je vais les nuancer. Alors déjà, quand tu parles de délinquance financière, donc tout ce qui est un peu la criminalité en col blanc, donc les escroqueries, tout ça. Très souvent, c'est des peines avec sursis qui sont prononcées.
Ok.
Donc quand c'est sur la partie emprisonnement. Donc c'est-à-dire, c'est un tour gratuit, tu vas en prison que si tu recommences, quoi, ouais. Concrètement. Par contre, c'est des énormes amendes, parce que l'État aussi fait son beurre là-dessus, on va pas se le cacher.
Voilà. Si on parle d'argent, ils veulent leur argent, quoi.
Voilà. Pour la perpétuité, alors... Il y a eu des cas, effectivement, mais plus anciens. Il y a des lois qui sont passées depuis. Déjà, par exemple, je t'ai donné le cas de Salah Abdeslam. Il a été condamné à la perpétuité réelle.
Ok.
Incompressible. Alors, en réalité, c'est pas réel de chez réel, mais on prendra jamais risque de le faire sortir. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, la perpétuité est toujours quasiment assortie de ce qu'on appelle une peine de sûreté. Donc, souvent, c'est 22 ans. Donc, c'est-à-dire qu'avant 22 ans, tu ne peux pas faire de demande de libération conditionnelle. Voilà, il y a aucun moyen que tu sortes avant. Mais après, c'est pas parce que t'as atteint les 22 ans que, genre, on te dit, bon, bah allez, salut, on te met avec le baluchon et à la revoyure, bonne aventure. Non, c'est pas ça. En réalité, tu dois présenter un dossier avec tout un projet de sortie. Donc, par exemple, quelqu'un qui va te loger. Un projet soit de formation, soit de travail, etc. Vraiment des garanties, comme quoi tu vas t'insérer dans la société, que tu as changé pendant ton incarcération. Et c'est une juridiction spéciale qui est compétente sur cette question-là. Donc, c'est tribunal d'application des peines, champ d'application des peines. Bon, je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail de qui entre en jeu et tout. Hein. Voilà. Mais c'est une décision collégiale prise par des juges, après des expertises, etc., qui décident si oui ou non on te fait sortir.
Okay.
Clairement, aujourd'hui, je vais te donner le cas de Guy Georges, qui a toujours dit « si je ressors, je recommence ». Parce que peu de gens le savent, mais avant tous les meurtres de l'Est parisien, comme on les appelle, Guy Georges avait violé de nombreuses femmes. Voilà, il a dit « je recommencerai ». Voilà. Clairement, aujourd'hui, je pense pas qu'il y a trois personnes qui vont prendre la décision collégiale de prendre le risque de libérer Guy Georges. Voilà, je le pose là. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus encadré. Il faut vraiment présenter ça. Mais c'est pareil, au final, tu sais, pour les peines pour les stupeux ou pour les proxos ou pour les gens qui sont condamnés pour des délits, c'est pareil. Si tu veux sortir avant, il faut voilà avoir eu des rendez-vous avec le service d'insertion et de probation, le SPIP. C'est le service en prison qui t'accompagne, etc. Il faut vraiment que tu aies montré un amendement, que, par exemple, t'aies commencé à indemniser les victimes, que tu aies reconnu ta responsabilité, que tu aies ton projet de sortie, etc. Voilà, aujourd'hui, les sorties sèches, ça existe quasiment pas. C'est-à-dire, tu sors et salut, il n'y a rien pour te contrôler, etc. De plus, aujourd'hui, il y a beaucoup ce qu'on appelle un rajout de période probatoire. Après, pendant tant d'années, tu devras être suivi, tu devras refaire des points, etc. Voilà. Aujourd'hui, juste on te libère de prison comme ça avec ton baluchon et salut, ça n'existe quasiment plus, en réalité. Maintenant, pour te parler de la question de la perpétuité réelle, je suis contre aussi. Parce que, encore une fois, ça rejoint ce que je te disais pour la peine de mort. Je pense que l'être humain peut toujours changer, peut toujours s'améliorer. Parce que on l'aura pris en charge, parce que il aura pris conscience. Enfin, tu aurais un accompagnement. Moi, je suis vraiment dans la question de l'accompagnement psychologique et psychiatrique. Et en fait, ne pas laisser du tout d'espoir de sortie, bah, pourquoi il s'améliorerait? Enfin, il n'y a aucun intérêt. On a acheté la clé, on l'a oublié. J'avais d'ailleurs une consoeur, bah justement au procès des attentats de Paris, qui avait sorti une phrase magnifique. Elle avait dit la perpétuité, c'est enlever le morceau de ciel entre les barreaux, c'est faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais se tenir debout. C'est ça, en fait. La perpétuité est beaucoup trop dure.
Je pense du côté aussi des victimes, parce que, enfin, des familles des victimes, et la victime, enfin, je sais pas, c'est... Mm-hmm. Là, on se focus sur la personne qui reste, tu vois, le tueur, bah, pour pas l'oublier, etc., le réinsérer, mais à la base, il y a aussi la personne qui est plus là, enfin...
Alors, tu sais, la plupart des victimes, et même, par exemple, celles des attentats de Paris, où j'avais été très surprise, ça fait la part des choses, déjà, la plupart. Notamment, bah, par exemple, à ce procès-là, ils ont dit, ah, mais lui, il aurait jamais dû être condamné à ça, c'est beaucoup trop, alors que c'est des victimes. Tu vois, ça t'ébranle quand t'entends ça, alors que c'est les premières qui ont le droit d'haïr et de vouloir le pire. En fait, la plupart du temps, les proches des victimes veulent juste une condamnation et une reconnaissance de ce qui s'est passé, de la culpabilité, du statut de victime. Le quantum leur importe assez peu, en réalité. Parce que c'est la décision qui dit, voilà, il est coupable. C'est lui qui a tué, par exemple, votre sœur. Voilà, ça leur permet de passer à autre chose, de faire le deuil, d'avancer. Bon, maintenant, bien sûr, quand c'est des quantums aberrants comme 5 ans pour un assassinat, voilà, bien sûr que là, c'est pas ça. Mais la plupart du temps, elles se préoccupent pas trop de ça et de leur devenir au demeurant après. Après, il faut savoir qu'elles sont informées aujourd'hui quand, par exemple, ils font une demande de libération conditionnelle, elles peuvent s'opposer, elles peuvent s'exprimer, etc. Mais il faut savoir que la justice n'est absolument pas l'image qu'on a tous dans notre tête.
Ah non, c'est pire.
Par rapport à nos représentations de la pop culture, les films, les séries, etc. En réalité, c'est beaucoup d'implications humaines, un peu inextricables. Et voilà, il faut le vivre de l'intérieur en tant que professionnel pour comprendre ces questions-là. Et je comprends que tu sois dubitative, mais vraiment, le plus important pour la plupart des gens, c'est la reconnaissance de culpabilité. Vraiment, c'est ça, en fait. Et après, ce qu'il y a derrière, bon, bien sûr, faut pas que ce soit aberrant, mais ça leur importe peu.
Parce que moi, mon point de vue, c'était que je veux pas dire que je pense pas à la réinsertion ou quoi du tout, mais c'est vrai que c'est un peu une question un peu chelou, tu vois. Tu peux te dire oui, je m'intéresse au devenir des tueurs et tout, parce que forcément, c'est que la société, elle a fait un truc, enfin, je sais pas, elle a manqué quelque part ou nanana. Mais aussi, des fois, au cas par cas, tu peux te dire non, mais c'est abusé. Enfin voilà quoi, et du coup moi je me dis souvent que bah la possibilité de réinsertion d'un criminel faut qu'elle soit proportionnelle à la capacité de la réinsertion de la victime. Si elle est crevée qu'il a mis tout son soin à bien la tuer ou je ne sais quoi, enfin tu vois. Et que
oui, mais c'est déjà le cas, Vanny, parce que là tu parles dans un absolu, dirons-nous, dans une généralisation. Mais si t'as tué quelqu'un pour sauver ton enfant, ou par exemple le cas de Jacqueline Sauvage dont je parlais tout à l'heure.
Non mais
ou voilà, c'est absolument pas la même chose.
Non, mais on parle pas des mêmes choses.
Alors
oui.
Que un Guy Georges ou un Francis Homme, t'as bien vu, ils sortiront jamais ces gars-là.
Ah oui,
ils sortiront
mais moi,
jamais.
Moi je te parle. Attends, parce qu'il y a plusieurs affaires. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement d'affaires par-ci par-là. Ils ont fait les mêmes choses en général. Hein, genre, je parle vraiment des. Je parle pas de Jacqueline Sauvage ou quoi, je te parle des gens, Guy Georges par exemple, tu vois.
Ouais.
Tu vas en avoir plein, mais c'est pas le cas pour tous de rester en prison en fait. Tu vois, genre par exemple, quand je t'ai dit mes deux exemples, c'est, je comparais par exemple les peines de, je t'avais déjà dit, Redouane Faïd là, qui avait fait, enfin qui a été condamné
à braqueur.
Je sais plus combien là, il y a une liste de, ouais, le braqueur. Sans violence, après bon ça reste une violence, hein, braquer des gens et tout, mais en mode c'était un peu spécial.
Non, il a quand même fait des violences, hein, Redouane Faïd, quand même.
Après bah je sais pas, moi le documentaire que j'avais vu ça expliquait un petit peu comment ça se passait et tout, genre enfin bref. Et en gros quand tu vois la peine qu'il a fait en prison, genre je crois c'était 17 ou 19 ans, je sais plus, enfin en tout cas tout à l'heure j'ai été revoir la Wikipédia, il y avait genre 20 piges, enfin je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bref. Et quand j'avais comparé avec l'affaire Flactif là que j'avais regardé un documentaire, la famille, je rappelle vite fait, ils avaient tué, en fait c'est des personnes qui avaient tué une famille, la famille Flactif en Haute-Savoie. Ils ont tué 5 personnes, donc les deux parents et leurs 3 enfants, mais d'une violence terrible. Il y avait des dents d'enfants retrouvées entre les lattes du parquet, enfin voilà quoi. Ces tueurs, ils ont prémédité le meurtre et ils sont ressortis au bout de 7 ans, enfin respectivement 15 ans, 10 ans et 7 ans. mais ça reste quand même en dessous des 19 ans pour braquage, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je comprends pas les écarts.
À 7 ans, c'est ceux qui avaient aidé à faire disparaître les corps, à nettoyer, etc. Parce qu'en fait, il y avait deux couples qui étaient dans les accusés. Le principal, David Ocha, et sa compagne, qui est, donc David Ocha était le tueur, enfin c'est ce qui a été établi judiciairement, même s'il a toujours contesté, où c'était de la pure jalousie par rapport à la famille Flactif, qui était des promoteurs immobiliers richissimes, et bon, apparemment il y avait un peu des entourloupes aussi, hein. Mais voilà, et l'autre couple, c'est eux qui avaient pris 7 et 9 ans, je crois, et donc la compagne de David Ocha, parce qu'elle n'était pas présente, mais c'est parce qu'ils avaient aidé à nettoyer, à faire disparaître les corps, les brûler, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est assez cohérent quand même, parce qu'ils n'ont pas participé au meurtre, mais il y a une complicité dans la modification de scène de crime, l'atteinte à l'intégrité du cadavre, par rapport à la, comment dire, à l'obstruction à l'enquête, etc., etc. Ça, c'est assez cohérent. Maintenant, David Ocha, c'est sûr que 15 ans, c'était pas beaucoup, mais c'était pas la même époque. Et puis, il a jamais reconnu. Enfin, voilà, c'est toujours un peu compliqué, ces questions-là. Maintenant, Redouane Faïd, son cas est un peu particulier. Alors, je connais pas l'affaire dans le détail absolu, mais il faut savoir qu'il a aussi eu des condamnations pour des évasions, etc. Et en France, on fonctionne un peu à l'accumulation de circonstances aggravantes, parce qu'un braquage, en fait, c'est un vol avec une arme, en bande organisée, etc., etc. Donc, ça augmente au fur et à mesure que tu rajoutes, tu vois. Par exemple, les violences en France, c'est juste des violences comme ça et que t'as moins de 8 jours d'ITT. Donc, l'ITT, c'est une unité de mesure, en gros, en justice, interruption totale de travail, où ça mesure la gravité, quoi. Mais c'est toujours un peu à la louche. Enfin, on sait jamais trop ce qu'ils vont mettre, les médecins légistes. Bref, si t'as juste des violences comme ça, sans circonstances aggravantes, rien du tout, avec moins de 8 jours d'ITT, t'es sur une contravention, c'est-à-dire une amende. Si on rajoute, par exemple, par ton compagnon, on passe à 345 000 euros d'amende. Si, par exemple, on rajoute, je dis n'importe quoi, violence avec stup, sur personnel de santé, t'es à 5 ans et tout. Voilà, on augmente au fur et à mesure.
Ouais, ouais.
Donc c'est pour ça que Redouane Faïd a pris aussi... un quantum aussi élevé.
J'ai pris cet exemple-là, mais en vrai, je connais pas, tu vois, genre vraiment tous les détails. Mais c'est juste que on peut prendre d'autres affaires qui seront peut-être, il y a pas autant de choses, tu vois, comme tu dis, qui s'accumulent. Mais
oui, ou par exemple l'affaire Doutreau aussi. Il y a l'affaire Doutreau, par exemple.
Ouais, voilà, où il y a des, où tu te dis, bah au final, pourquoi il y en a un, il y va plus que l'autre, genre, alors que tuer, ça devrait être le truc où tu y vas le plus longtemps, au moins. Enfin, tu vois. Genre là, ça, on va sur des 7. Genre, il n'y a même pas de chiffres. Genre 7, 5, 4. Enfin, je sais pas, c'est chelou.
Alors, je vais t'expliquer comment on fait une décision aux assises. Parce que moi, j'ai assisté en travaillant. J'étais président d'assises et j'ai plein de confrères qui ne savaient pas que ça se passait comme ça. Parce que, encore une fois, on est dans le Saint des Saints, etc. Concrètement, donc, aux assises, tu as 3 magistrats professionnels. Donc, le président et 2 autres qui sont des assesseurs. On appelle ça comme ça.
OK.
Et ensuite, tu as les jurés. Le nombre varie entre, si c'est en première instance, en appel, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, à la fin du procès, on est à 8 clos. Là, pour le coup, tu n'as absolument pas le droit de sortir de la salle. Si tu fumes, c'est compliqué. Voilà, je le précise. Il y a quand même des toilettes dans la salle. On n'est pas à Guantanamo. En revanche, on commence à discuter de l'affaire, etc. Le président, lui, ne donne pas son avis. En fait, juste, il dit, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu? Il peut préciser un peu des questions juridiques parce que, voilà, c'est des modus, hein, les jurés. Donc, on discute de tout ça, etc. Et en fait, c'est des tours de vote, ensuite. Donc, il y a un vote qui est sur la culpabilité. Enfin, faut qu'il y ait une certaine majorité qui est qualifiée, comme on dit. Donc, il y a ce premier tour de vote où on met oui ou non pour la culpabilité. Si ce qu'il emporte est le non, c'est terminé, acquittement. Si ce qu'il emporte est le oui, là, on commence à parler de la peine. Donc, le président explique, voilà, on a décidé qu'il est coupable, on n'a pas le droit de condamner à moins d'1 an. Ça, c'est obligatoire. Le maximum prévu par la loi étant, donc je te dis n'importe quoi, un assassinat perpétuité. Voilà, donc on a tout le panel entre 1 an et la perpétuité. Il y a un premier tour de vote, on va dire de prise de température, quelque part, où chacun marque la peine qu'il estime devrait être cette peine. Voilà. Et ensuite, à partir des autres tours, à chaque fois qu'il n'y aura pas cette majorité qualifiée, la peine la plus haute ne pourra plus être mise. Donc, je te dis n'importe quoi. Le premier tour, t'avais des peines qui allaient de, allez, on va dire, 10 ans à 25 ans. Le second tour, il n'y a toujours pas de majorité qualifiée sur 25 ans. On n'a plus le droit de mettre 25 ans comme peine. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on descend jusqu'à ce qu'il y ait la majorité qualifiée pour la peine. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des fois des trucs qui sont hallucinants. C'est en fait, les gens décidaient de la culpabilité peut-être, mais n'étaient pas forcément hyper convaincus. Ou oui, pas, mais bon, il y a peut-être tel et tel élément, enfin voilà. Et c'est comme ça que, par exemple, enfin moi j'ai déjà vu des affaires où voilà, je pensais qu'il y aurait à avoir 4 fois plus, quoi, comme peine. Et en réalité, c'était pas le cas parce qu'ils arrivaient pas à se mettre d'accord et voilà. Après derrière, c'est le taf aussi de l'avocat général, donc du parquet, donc ceux qui représentent la société qui requiert, de faire un appel sur la peine parce que les victimes peuvent pas le faire. Les victimes ne sont pas une réelle partie au procès sur la question de la culpabilité, elles ont le droit que pour l'indemnisation si ça leur convient pas. Donc c'est au parquet de faire son travail et de faire un appel en disant « Non, moi j'estime que la peine est trop basse. » Donc on fera un procès en appel.
Mais alors déjà le système il est un peu bizarre. Genre pourquoi ils donnent pas une feuille à chacun et ils disent « Mettez la peine que vous pensez, il le mérite. » Après on prend tous les trucs et on fait une moyenne. Enfin, on prend tous les papiers et on fait une...
C'est obligé d'être un vote à bulletin secret pour respecter l'intime conviction de chacun.
Ah, mais c'est très secret. Tu lui donnes une petite feuille, tu lui dis écris 20 ans, l'autre il écrit 15 ans. Enfin, vous allez tous dans une urne là, ou je sais pas comment, je sais même plus comment ça s'appelle. Et puis on dépouille le truc. On fait une moyenne. S'ils ont tous mis à peu près 20 ans, bah on donne 20 ans.
Non, parce que les règles de vote, c'est la majorité qualifiée. C'est comme ça.
Eh ben, c'est nul. C'est nul.
Ne t'inquiète pas, de toute manière, c'est un projet de supprimer les cours d'assises. Ah, alors moi, je suis totalement opposée à ça. Ah. Ils veulent faire des cours criminels pour des crimes allant jusqu'à 20 ans, je crois, où ce serait que des magistrats professionnels. Le problème, c'est que les magistrats professionnels ont des biais d'interprétation, comme n'importe quel professionnel de la justice. Les peines seront pas forcément plus lourdes et il y aura peut-être même plus au final d'acquittement que quand il y a des jurés.
Ok, d'accord.
Tu vois, par rapport à nos standards, où il y aura des peines plus lourdes que ce qui aurait dû être avec un jury. Et moi, je suis profondément attachée à l'idée du jury populaire, puisqu'en fait, comme je t'ai expliqué, le parquet requiert au nom de la société, au nom des intérêts de la société, pour faire cesser le trouble à la société. C'est à la société de s'exprimer sur le jugement de ses pairs, pour lequel est plus grave en mon sens. Parce que...
Ah, donc là, on veut plus nous demander notre avis, c'est ça,
en fait. Ça. Tu ne seras pas là.
Ah, d'accord. Ok. Bah, d'accord. Merci beaucoup.
Plus duré. Et en réalité, ça fera des cas où... Voilà, clairement, t'as des clients qui présentent mal. On va pas se le cacher. Bah, qui pourront te prendre cher, alors qu'avec des jurés qui ont une certaine sensibilité et qui ne sont pas déformés par le droit, parce qu'on est tous déformés par le droit, l'auraient peut-être acquitté.
Ok. Ok, putain. Ça reste un peu compliqué, mais bon, on voit un peu le délire, même si moi je suis pas d'accord. Je sais pas, je m'attendrais à ce que les populations soient plus dures, parce que j'ai du mal à comprendre que parce que si tu regardes les réseaux sociaux en général, la réponse est pas du tout ça. Hein. Si on regarde Twitter, ça veut vengeance, ça veut je ne sais quoi. Donc je suis très étonnée que tu me dises que les gens veulent juste reconnaissance de la chose et puis voilà quoi.
Alors. Moi, j'ai vu les deux cas. Je vais pas te briser le secret du délibéré. J'en ai pas le droit, voilà. Mais j'ai vu les cas où, si on dit toujours, je crois que c'était Machiavel qui disait ça, donner du pouvoir à quelqu'un, il en abusera toujours. J'ai vu ce cas-là où j'avais dû discuter avec le juré parce que je les amenais fumer. Voilà, je déchargeais un peu le président de ce genre de petites tâches. Il m'avait posé des questions et je lui ai dit oui, mais oubliez pas non plus les contextes dans lesquels les faits se sont déroulés, etc. C'est vrai que c'était... Ah oui, oui, effectivement, c'est vrai, je suis trop dure sur ça, etc. Maintenant, il y a aussi l'autre côté où les gens se mettent à la place, voilà, de l'accusé. Et voilà, il y a toujours cette intime conviction qui joue. Et aussi, ils se posent la question, est-ce que vraiment, j'ai pas de doute, je pourrais me regarder tous les jours dans le miroir en me disant, j'ai envoyé quelqu'un 25 ans en cabane. Voilà. Il y a aussi cette question-là.
Ouais, ouais. Non, mais c'est surtout, enfin, moi, je te parle dans les trucs où c'est vraiment tranché, tu vois, c'est pas, enfin, voilà, je sais pas.
Ça n'existe pas, les affaires tranchées. Ça n'existe pas, en réalité. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intimité de la salle d'audience où, même moi, hein, y a des dossiers que j'avais pu préparer avant les assises auxquelles j'ai assisté. Je me disais, ouais, franchement, je suis pas convaincue et tout. Ne t'inquiète pas, la conviction est acquise à l'audience. Donc voilà, on ne sait jamais en réalité. Et c'est ça qui est beau dans les assises. Et c'est là vraiment le dernier truc où tout se passe à l'oral. C'est ces moments d'audience où tout peut basculer, où il y a des choses qui se passent et que seul un être humain peut percevoir et pas ChatGPT, justement.
Non, mais ça m'étonne. C'est pas trop ce que je ressens de la population.
Tu iras voir des assises et on en reparlera. Okay. On fera un épisode 2 s'il faut.
Ah oui, parce que t'as l'image des gens au Moyen-Âge, là, qui étaient là à regarder toutes les exécutions en mode ils sont contents. Et puis aujourd'hui, bon.
Oui, mais alors c'était différent parce que n'oublie pas que c'était une société judéo-chrétienne.
Oui, c'est vrai.
Avec toutes les questions du jugement de Dieu, etc. Si t'étais condamné, on estimait que c'était parce que Dieu avait décidé que tu étais coupable. Puis je te rappelle qu'à l'époque, c'était un peu châtiment corporel. C'était un peu compliqué, la peine, revenir en arrière. Tu vois, quand t'as été écartelé, oups, on s'est trompé. On recolle les morceaux.
Oui, forcément.
C'était un peu compliqué. Voilà.
Voilà.
Mais tu sais que jusqu'à très récemment, l'appel n'existait pas en matière criminelle en France. Ça n'a été que dans les années 2000 que ça a été instauré. C'est pour ça qu'avant, il y avait le droit de grâce du président.
Ah ouais.
Quand on n'était pas sûr, ou quand il y avait des choses qui se révélaient après, il y avait le droit de grâce du président. Aujourd'hui, on a encore la procédure en révision, mais on l'a quasiment jamais. Par exemple, Omar Haddad, qui était cet homme qui avait été accusé d'avoir tué sa patronne. C'était un jardinier d'origine maghrébine. Où il y avait marqué le fameux « Omar m'a tué ER ».
Ouais, on l'a fait en live, celle-là.
A été accusé. Et il avait toujours nié sa culpabilité. Il y a plein d'éléments qui sont ressortis. Enfin voilà, il y a plein de podcasts pour aller écouter si vous voulez, etc. L'avocate actuelle a demandé plein d'expertises parce qu'il y avait des ADN qui n'avaient pas été exploités, des gens qui n'avaient pas été soupçonnés, qui auraient dû l'être, etc. Et il obtient toujours pas sa révision 20 ans après sa libération et sa grâce présidentielle. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place l'appel aujourd'hui. Mais jusqu'en 2000, ça n'existait pas. Donc, il n'y avait que le droit de grâce du président. Okay, okay. Et en fait, il existe en France le pourvoi en cassation, mais ce n'est pas un deuxième appel parce que ça ne juge pas les faits, ça juge le droit. En fait, pour aller en cassation, il faut dire « ta règle de droit a été mal appliquée. J'estime qu'elle a été mal appliquée. Est-ce que vous me donnez raison ou pas ?» Et on refait juger l'affaire.
Ok.
Mais ce n'est pas un deuxième appel.
Ouais, on a vu cette affaire de fou, là, l'affaire Omar Haddad. On l'a fait en live sur ma chaîne Twitch.
Ah bah elle est passionnante l'affaire Omar Haddad.
Ah bah oui. Moi je suis, il y a des personnes, moi et d'autres personnes dans la société, je suis très, j'oublie le mot à chaque fois. Je l'ai toujours en anglais mais j'oublie le mot. Genre tu sais quand t'arrives pas à oublier, à pardonner, genre t'attends le moment pour la prochaine.
Rancunière.
Voilà. Moi, c'est parce que je suis très rancunière que je pense comme ça. Donc, il se passe un truc, je vais pas être en mode « Oh oui, bah, allez, justice, reconnaissez ce qui s'est passé. » Et puis, je continue à faire ma vie, hop là, hop. Et puis l'autre, je le croiserai à Lidl peut-être dans 7 ans ou dans 10 ans quand il ressortira. Non, moi, c'est mort, tu vois. C'est j'attendrai le moment, tu vois ce que je veux te dire. Donc, voilà, je sais pas. Naturellement, je penserais que la plupart des gens seraient comme ça. Mais apparemment, de ce que tu me dis, non.
Mais je te rassure, j'étais comme ça avant aussi. Hein. Et quand tu n'es pas confronté à la réalité du droit, tu es comme ça. Et c'est normal parce que c'est humain, parce que on a un esprit assez manichéen aussi, avoir tout en blanc ou en noir, souvent. Mais être avocat, c'est composer avec les nuances de gris. Et être dans la justice, c'est faire ça aussi. Et au final... Bah, quand on a impliqué, on se rend compte que c'est aussi ça. Donc, c'est pour ça, je te dis, en fait, c'est pour ça que notre métier est peu accessible aux moldus. C'est que quand on n'a pas été placé face à tout ça, qu'on n'a pas cette expérience, qu'on n'a pas ce recul, c'est normal qu'on comprenne pas notre métier aussi et qu'on nous juge de façon manichéenne. Mais on se rend compte que voilà, l'humanité, c'est des nuances de gris. Et font composer avec. Il y a du gris plus foncé, il y a du gris très clair. Mais personne n'est parfait. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je pourrais pas être juge parce que je me comparais. Parce que, par exemple, je te dis n'importe quoi. T'as déjà volé un bonbon, ou je sais pas, t'as déjà tapé quelqu'un qui t'emmerdait quand t'étais dans la cour de la maternelle, voilà. Personne n'a jamais commis quelque chose de mal dans sa vie. On a tous des choses à se reprocher. Et au final, moi je te dis, aujourd'hui j'ai du mal à avoir des convictions sur des dossiers parce que voilà, j'ai une idée, j'ai une intuition, mais je dis ouais, mais il y a peut-être ça, mais il y a peut-être ça qui s'est passé, et puis on sait pas, il y a peut-être ça, etc. Mais ça, il faut avoir été confronté au droit et avoir exercé dedans pour le comprendre. Mais c'est très humain d'être manichéen et de dire ah, il a tué, bah non, va crever dans ta cellule, et puis voilà, je le comprends aussi, il y a pas de problème là-dessus. Mais nous, justement, c'est pour ça que il y a des procès où j'ai pas adhéré, notamment où j'ai participé, où des avocats ont oublié ça, ou même des membres de la justice ont oublié ça. On est censé être un peu au-dessus du lot. Alors, ça fait très prétentieux ce que je viens de dire, mais je veux dire, on n'est pas censé écouter la haine, la crainte.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Etc. On est censé se baser sur des faits, sur des preuves. Ça s'arrête là, en fait. On n'est pas là pour mettre, nous, nos émotions et nos convictions là-dedans. Enfin, on en a toujours un peu, mais on est censé se baser sur les faits, les preuves.
Oui, mais t'as dit qu'il fallait aussi être profondément humain. Donc, au final, ça doit ressortir aussi
dans,
à un
dans
moment.
La défense, oui, dans la défense, oui, dans la défense, dans la façon d'appréhender le dossier. Maintenant, je vais jamais dire si je défends une victime de viol, c'est un monstre, il faut le castrer. Voilà, je dirais jamais ça. Même si au plus profond de soi, on peut dire ce qu'on veut.
Ouais.
Voilà, par exemple, moi j'ai déjà eu des convictions sur des dossiers, mais je les exprime pas parce que je suis pas là en tant que moi, Clémence, 29 ans et jeune femme française. Je suis là en tant que maître, avocat, qui représente la justice. Quand je porte ma robe, hein, j'aurais été un peu imperméable à tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on porte une robe, etc. On se détache un peu du commun des mortels et on est censé faire respecter les principes et être un peu au-delà des passions et de la mêlée.
Et du coup, en gros, en soi, quand la justice elle est rendue et que bon, voilà, ils ont fait appel, etc. Enfin, tu vois, qu'une fois que c'est terminé ou est-ce que il existe une justice des justices? Genre, par exemple, tu te rends compte après, je sais pas, tu t'étais l'accusé, tu te rends compte que ah bah ils ont peut-être été un petit peu racistes ou je sais pas, tu vois, ils ont un petit peu alourdi le truc. Est-ce que tu peux après te dire bah attends, moi je vais faire un truc là pour parce que je trouve que c'est injuste avec le recul, tu vois. Genre est-ce que tu peux aller je sais pas moi sommer à la justice des justices, genre j'aimerais enfin tu vois, je sais pas. Je sais pas si ma question est bête.
Alors les baffes carottes de la justice, ça n'existe pas. Voilà. On va poser les choses. Maintenant, tu as deux choses. Il y a une responsabilité des magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature qui peut être engagée dans les cas où on estime qu'il y avait un préjugé. Donc ça, c'est possible. C'est aussi les cas, tu sais, qu'on appelle récusation, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail qui va vous perdre. Et il y a aussi le cas que je t'ai expliqué de la révision où là, il faut qu'il y ait un élément nouveau qui n'était pas connu au moment du jugement qui remet en cause la culpabilité ou la décision qui a été prise. Mais comme je t'ai expliqué, la révision, c'est un peu compliqué. Par exemple, il y a la famille dans l'affaire Seznec qui est une très vieille affaire. En gros, pour faire ça, d'un gars qui avait tué un autre. Hein, voilà. Je crois que c'est des années 30 ou 40, quelque chose comme ça, qui est encore en train de se battre pour obtenir une révision alors qu'il est mort. Donc, voilà. Ou par exemple, il y avait aussi l'affaire Ranucci, donc c'est le dernier condamné à mort français, qui a été exécuté parce que le dernier condamné à mort n'était pas de nationalité française, où il avait enlevé une petite gamine dans la région de Marseille, il l'avait tuée. Il a été reconnu coupable, il a été exécuté. Lui, il disait que non, que ce n'était pas lui. Et en fait, il y avait un auteur qui avait sorti un livre qui s'appelait Le Pullover Rouge, où il démontrait une autre théorie comme quoi il aurait été innocent, qu'il s'est battu pour qu'il y ait une révision. Il n'y a jamais eu de révision. Voilà. En fait, les révisions, c'est quasiment impossible à obtenir. Donc, non, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pour ça qu'aussi, comme je t'ai dit, on a ouvert l'appel, qu'aujourd'hui, la Cour de cassation, voilà, il faut plaider en droit. La Cour européenne des droits de l'homme qui peut passer, il faut aussi plaider en droit. Mais on a quand même un peu plus de cordes à son arc, quoi, quelque part.
Ok. Non, mais je voulais juste savoir, tu vois, parce que je sais qu'il y a la police des polices, justice des justices. Je me suis dit, peut-être, voilà, bon, bref.
Malheureusement, non, mais ce sera à mettre en place. On va aller proposer ça au garde des Sceaux.
Ok, merci. Pour revenir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, bon, on va en reparler vite fait, mais t'as déjà répondu à la question. En fait, c'est parce que j'ai regardé, comme beaucoup de gens, la série Dahmer de Ryan Murphy. Je sais pas si tu l'as vue sur Netflix.
Je l'ai pas regardée parce que j'ai pas eu le temps et j'avoue que je trouvais ça un peu voyeur. Je connais l'affaire. Je me disais le contexte dans lequel la série a été faite pour les familles des victimes, un peu compliqué quoi. Et elle est assez gore de ce que j'ai vu, donc c'est pas trop ma cam. Ça me dérange pas en fait les autopsies, c'est très bizarre. Hein. Ça me dérange pas de bouffer devant des autopsies quand je fais mon dossier ou quoi, mais je sais pas. Regarder ça H24, je crois que j'en vois déjà assez dans mes journées.
Gore, je sais plus. C'était, enfin, j'ai pas le souvenir que c'était. Alors, je déteste le gore, hein, mais j'ai pas le souvenir nécessairement. Enfin, j'associe pas le gore à la série. Je sais que c'est violent, tu vois. Genre, ils vont te montrer que c'était un gros dégueulasse, mais par exemple, moi, quand après cette série, ils ont parlé des Polaroids, etc. Ouais, ils prenaient des photos, nanana. Je me suis dit, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais aller voir s'ils existent vraiment, genre les Polaroids et tout. Ils étaient sur Google, n'allez pas chercher d'ailleurs. et je me suis dit, putain, dégueulasse. Mais tu vois, par exemple, dans la série, ils ont pas montré un niveau dégueulasse.
D'accord.
Comme ça. Enfin, je sais pas.
Oh, bah, je regarderai peut-être alors. Bon,
écoute. Après, c'est juste que ça a été super populaire. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé qui sont pas du tout, qui regardent pas d'habitude les trucs d'affaires criminelles, tu vois, comme nous. Donc au final, moi, j'ai pas trouvé ça très choquant, enfin, comme les autres, quoi, pas plus. Enfin, j'ai vu des trucs beaucoup plus gore, genre par exemple le truc sur Luca Magnotta.
Mais par exemple, il montre pas la scène où, genre, il injecte de l'acide dans le cerveau de ses victimes, tout ça, ou il le montre
Non. Il te laisse sous-entendre qu'il va le faire, en fait, tu vois. Mais ils ont pas montré de trucs. Alors après, peut-être que je m'en souviens plus, mais c'était pas genre. C'était pas gore. Enfin, je sais pas.
Ouais, c'est pas
dire,
version
pas...
saut, quoi.
Non, c'était bref, et du coup si je parle de ça, c'est juste parce que en fait je voulais te parler de ce que t'as dit tout à l'heure sur le fait que quand les gens ils sortent de prison, est-ce que s'il y avait un suivi ou pas, c'était ça ma question, mais tu m'as déjà répondu, genre en mode si tu sors et c'est t'as tué des gens, il y a pas de suivi.
Alors faut que ce soit ordonné, c'est assez récent quand même cette peine de suivi par la suite. Mais aujourd'hui, ça fait partie des peines complémentaires, oui, de pouvoir ordonner un suivi, mais encore faut-il qu'il soit prononcé. Et là, pour le coup, tu vois, c'est un peu le rôle aussi de l'avocat côté partie civile, côté victime.
Ouais, de demander.
Dire, voilà, moi, je n'ai rien à dire sur la peine, voilà, c'est pas mon rôle. En revanche, c'est quelqu'un qui a une dangerosité potentielle, qu'il faudra accompagner, qu'il n'y ait pas de sortie sèche, à mon avis.
Ouais, parce que, voilà. En fait, justement, dans la série Dahmer, il y avait une scène que je trouvais intéressante et que souvent on n'y pense pas trop à ça, en fait, tu vois. Alors ils disent ouais, tueur machin, ils te montrent le jugement et puis après voilà, ils te montrent jamais quand ils ressortent plus tard, ou enfin bref.
Bah lui, il est mort en prison, ça allait être compliqué.
Oui. Non, mais en gros la scène, c'est parce qu'en fait je sais plus trop les détails, j'ai essayé de retrouver le passage mais j'ai pas retrouvé sur YouTube et j'avais la flemme de regarder la série, mais genre en gros c'est quand il y a Dahmer qui fait de la prison, quand il est au tout début, tu vois, genre quand il est encore pas connu, tu vois. Je sais plus pourquoi il avait fait de la prison, peut-être c'est parce qu'il avait agressé quelqu'un ou tué quelqu'un, je sais plus, mais en tout cas je suis plus sûre du nombre d'années, mais il était resté quand même un certain temps
en probation. Ouais,
et donc ouais, voilà, peut-être. Et du coup, en gros, il est sorti, je crois, quelques années plus tard. Il y a son père qui vient le chercher. Tu vois, il est tout content. Mmh. Son père, il se dit, ah bah, voilà. Et il lui demande ce qu'il a fait en prison, s'il a pu échanger avec des psys, guérir, quoi. Mmh. Comment il se sent maintenant, après tout ça. Et il y a Dahmer qui lui répond, comment ça? J'étais juste assis dans ma cellule. entre quatre murs. J'ai fait mon temps et puis bah là je sors et puis il sourit, tu vois, et puis là le sourire du père il tombe et il lui dit bah va m'attendre dans la voiture. Et genre son père il s'est mis dans un coin et tout, il s'est mis à pleurer parce qu'il a compris que en fait son fils il a juste été en prison, il a attendu là-bas et ils ont rien fait pour le changer quoi.
Au final tu rejoins ce que je t'expliquais, que je disais qu'il faut pas jeter en prison et jeter la clé, c'est ça rejoint ça.
Oui, bien sûr.
Maintenant, ah c'est oui, aux États-Unis, je connais un peu moins bien le droit américain bien entendu. Je sais qu'il y a la question des agents de probation, des périodes probatoires etc. Je sais que les sorties se passent un peu pareil qu'en France comme je t'expliquais, tu passes devant une commission, tu dois reconnaître les faits, tu dois présenter un projet de sortie, la victime doit être entendue etc. Maintenant, clairement, tout ce dont je te parle, c'est le droit, c'est ce qui est prévu. Je vais pas te dire qu'il y a pas de trou dans la raquette. On en voit tous les jours. On voit tous les jours des gens qui auraient pas dû être relâchés. Aujourd'hui, on essaie un peu d'accompagner ça, mais c'est pas assez entendu parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, encore une fois, la seule solution est la prison et on veut pas soigner, on veut pas réinsérer, on veut pas aider quelque part. Parce qu'il faut aussi savoir qu'en France, on a un mauvais traitement des pathologies psychiatriques. En fait, la folie était beaucoup mieux tolérée au 19e siècle, par exemple, qu'aujourd'hui. Parce que ça faisait partie du quotidien, parce qu'on savait que ça existait. Aujourd'hui, il faut la cacher, il faut la nier. Il n'y a clairement pas assez d'hôpitaux psychiatriques. Je te le dis, il y a au moins un tiers de la population carcérale qui ne devrait pas être en prison, mais en hôpital psychiatrique. Voilà. Donc oui, il y a des trous dans la raquette et je serais pas avocate si j'estimais pas qu'il y en avait pas. Enfin, si j'estimais qu'il y en avait pas. Voilà. Maintenant, je sais que aux États-Unis, il y a eu pas mal de trous dans la raquette comme ça. Par exemple, tu me cites Jeffrey Dahmer, mais il y a aussi Edmund Kemper, où il a réussi carrément à manipuler ses psys. Tu sais, il avait tué ses grands-parents avant de faire toute sa série de meurtres là. Il avait réussi à manipuler ses psys, à faire comme s'il était normal pour ressortir alors qu'il était pas soigné. Voilà. Il y a toujours des trous dans la raquette, mais c'est comme ça quand on traite de l'humain, malheureusement, parce que l'esprit humain est peut-être la dernière grande inconnue de notre époque aujourd'hui, comme la mort, comme le cerveau. On en connaît que 5 ou 10% actuellement. Donc voilà, maintenant, il y a, en tout cas en France, des lois qui sont prises. Bien sûr, pas assez. Il n'y a pas assez de moyens pour les mettre en œuvre, c'est sûr. Mais on essaye de pallier un peu ça pour prévenir la récidive.
Ok. C'était juste, tu sais, pour me dire, genre, moi, là, je vais en prison, j'ai tué quelqu'un, je ressors. Est-ce qu'ils vont venir m'envoyer des courriers pour me demander des nouvelles ou pas du tout, tu vois? Genre, de manière générale.
Alors déjà, c'est moi qui serai ton avocate. Et je dirais, écoutez, il faut la soigner, il faut comprendre comment elle est passée à l'acte. On lui mettra un petit suivi socio-judiciaire derrière, voilà.
Oui, donc en gros, faut demander, quoi. Non, mais faut le demander, quoi, parce que sinon, genre, juste de tuer, c'est même pas automatique de dire, bah, bon, on va quand même regarder après.
J'ai envie de te dire que dans ma grande naïveté, dans ma grande confiance en la justice, normalement, les juges devraient le faire.
Mais c'est pas prévu.
Non, en réalité, en fait, c'est pas... si, c'est prévu, mais encore faut-il qu'ils y pensent, qu'ils le prononcent.
Ah oui, ça.
Voilà. C'est... Okay. Après, j'ai pas envie qu'on pense que je tape sur les flics, les juges, les procs, même si je le fais. Mais il faut aussi savoir qu'ils ont pas assez de moyens et que quand t'as 200 dossiers en cours, bon, bah, les ratés, ça arrive, quoi. Comme les gens, par exemple, qui sont libérés de prison parce qu'on a fait péter un délai sur les détentions provisoires. Mais aussi, on peut pas en vouloir à un juge qui traite 150 dossiers en même temps. Il faut aussi se remettre dans la réalité des choses.
Oui, bon, c'est juste une petite lettre. Hein. Quand t'as une amende, ils te la renvoient la lettre, hein, le fisc et tout. Hein. Ils ont les petits moyens pour... hein. Là, les timbres, ils sont payés.
Oui, non, mais alors, là, tu confonds. La justice a du mal à retrouver les gens. Le fisc te retrouvera toujours. Toujours. Donc, vous avez compris, tes auditeurs, si vous êtes victime d'une infraction, priez fort pour qu'il ait fraudé le fisc, l'auteur. On le retrouvera. Voilà.
Bah, là, les moyens, là, par contre, ils ont l'effectif, il est bien, hein, chez le fisc, hein. C'est quand on veut, en fait.
Bon, ah, bref. Bah, après, chacun met ses priorités là où il veut, dans les politiques.
Passons.
On refera pas le monde.
J'ai quelques questions encore qui me restent par rapport aux peines et tout. Enfin, bref. Je voulais te demander pourquoi, la loi, tu sais très bien, les peines et tout, pourquoi c'est moins bien appliqué, bizarrement, pour les riches ou les personnes politiques, ce genre de choses, les célébrités, que pour les pauvres? Et par cette question, j'entends pourquoi est-ce que pour les paysans comme nous, les gens lambda, les lois, elles sont plus facilement appliquée, plus sévère, genre on va pas te lâcher, ça envoie les courriers, ça envoie les amendes, des montants astronomiques des fois, hein, voilà. Alors que bah t'as un mec à côté, je sais pas, tu sais, bon après ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais prends une photo sous ta jupe, les flics l'emmènent, ils lui disent de supprimer, puis voilà, il ressort sans problème, ou même les politiques, tu sais. On entend ils sont condamnés, mais moi je sais des fois on entend ouais Sarkozy condamné, nanana. Enfin souvent moi j'entends des trucs comme ça. Je vois des fois passer prison ferme, prison, mais j'ai jamais vu par exemple une vidéo où il y a Sarkozy qui va en prison. Enfin tu vois ce que je veux dire, genre j'ai pas l'impression qu'il arrive grand chose à chaque fois. Tu sais ils sont riches, ils sont politiques. Dès que ça parle de condamnation, de jugement ou je sais pas quoi, tu sais que c'est un monde à part en fait. Je sais pas comment dire. On dirait que la justice est séparée, les lois sont séparées, les peines sont séparées. Enfin, je sais pas, c'est bizarre.
Alors, il y a du vrai, il y a du faux dans ce que tu dis. Il y a okay. de l'impression et de la réalité.
Okay.
Disons que déjà, les infractions ne sont souvent pas les mêmes suivant les catégories sociales. Voilà, c'est une réalité. Même si maintenant, ça commence un peu, comment dire, à être poreux. Mais voilà, ce dont tu entends parler dans les médias, parce que c'est aussi que ce que tu entends parler dans les médias. Hein. Ouais. Tous les jours, il y a plein d'affaires qui sont jugées en France dont tu n'entendras jamais parler. Le plus souvent, pour les classes, disons, plutôt hein, défavorisées ou moyennes, ça va être plus des questions voilà de violence, de vol, ce genre de choses, de peut-être toute petite escroquerie, tu sais, genre à la CAF, ce genre de choses.
Ouais.
Violence conjugale, voilà. C'est plus ce gros-là, dirons-nous, les infractions routières, ou le stup, l'alcool, etc. Alors que pour les classes, disons, plus supérieures ou plus que supérieures, on va plus être sur des questions de délinquance financière, la criminalité en col blanc, ou sur des questions touchant plutôt aux infractions politiques ou aux infractions à caractère sexuel. C'est pas les mêmes choses. Déjà, c'est pas les. La preuve n'est pas aussi facile dans ces dernières catégories qui touchent les plus hauts, les plus aisés, dirons-nous, que pour les autres. La preuve est plus dure à rapporter. Il y a déjà cette question-là. C'est pas forcément les mêmes peines qui sont prévues parce que, voilà, pour moi, quelqu'un qui fait de la délinquance financière, c'est au porte-monnaie qu'il faut le taper. C'est pas en le foutant en tôle qu'il va comprendre. Voilà, clairement. Pour ce qui est politique, bon bah, on sait ce qu'est la politique aujourd'hui. Voilà, on va pas rentrer dans le débat. Il y a des amitiés, il y a des protections, il y a des gens qui savent des choses sur d'autres, etc. Voilà, on va pas épiloguer. Mm. Et les questions sexuelles, bah, on sait aujourd'hui que c'est le nerf de la guerre. Et je t'en ai déjà parlé. C'est très compliqué à prouver. On en a encore aujourd'hui au stade de la jupe et de savoir si t'avais bu. Ou de savoir si on est sûr que t'as pas laissé l'ambiguïté, alors que quand même, j'ai envie de dire, jusqu'au dernier moment où t'es nue dans le lit avec le gars, t'as le droit de lui dire non. Voilà, on en est là. Donc, il y a ça. Maintenant, je te rejoins, parce que je peux pas non plus vivre en utopie dans le monde des bisounours. Il est clair qu'il y a une justice à deux vitesses.
Mm.
Voilà. Et que c'est pas pareil quand t'as... Monsieur Dupont en face que quand t'as un politique, par exemple, pour une infraction sexuelle. On sait que c'est quasiment mort. On sait que c'est David contre Goliath.
Ouais, c'est pas impartial. Quoi.
Voilà. Et ça, malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui. Je serais pas, encore une fois, voilà, je serais pas avocate si j'estimais que tout allait bien dans la justice. Donc, je le reconnais. Maintenant, je t'explique qu'il y a quand même des raisons, disons, objectives.
Ouais.
D'expliquer
ouais,
cette différence. Mais il y a des raisons subjectives aussi également. Et puis, des fois, ils ont aussi pas des meilleurs avocats. Parce que beaucoup d'avocats sont très bons, ils ne sont pas connus. Mais voilà, quand t'es connu, ça fait peur aussi. On connaît des noms d'avocats qui étaient très connus, qui faisaient peur récemment. Voilà, donc il y a aussi cette question-là qui joue. Ces avocats ont peut-être plus de contacts. Voilà, il ne faut pas non plus penser que... Malheureusement, la justice n'est pas à l'image de l'allégorie de la justice qui était mise avec son bandeau sur les yeux, le glaive dans une main et la balance dans l'autre. Non, la justice n'est pas aveugle, malheureusement, aujourd'hui. Donc voilà, il y a une part de réalité et une part un peu de sentiment dans ce que tu dis. Mais oui, il y a une réalité latente, effectivement. Et pour compléter, par exemple, pour les gens connus, moi je pense beaucoup aux infractions sexuelles, puisque voilà, il y a eu MeToo, etc.
Après, j'ai l'impression que même les gens pas connus, c'est la même chose. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a de différence pour au niveau des agressions sexuelles que tu sois connue ou pas connue, j'ai l'impression
c'est un peu plus dur quand la personne est connue quand même, parce qu'on dit toujours ah oui mais comme par hasard là elle est connue, comme par hasard elle accède à tel poste et là on révèle ça, enfin c'est trop bizarre, etc. Enfin voilà, alors qu'on connaît très bien aujourd'hui les amnésies qui sont de protection dans les cas de choc post-traumatique, etc. Voilà, mais voilà, ça existe, oui, il faut pas le nier, ça existe cette différence. Maintenant, on n'est pas au même niveau que les États-Unis, parce qu'on n'est pas dans le même type de justice, nous, pas dans tous les cas, mais on arrive plus facilement à un procès. Aux États-Unis, quasiment 90% des affaires se règlent par des accords transactionnels.
Ouais. Ben, on va reparler après des États-Unis. Là, j'ai encore juste deux questions, vite fait, et on va terminer sur la partie française et on va basculer aux States.
Que tu attends avec impatience, les States.
Oui. C'était juste deux petites questions comme ça, plus légères. Là, c'est plus du tout. Je veux plus te parler des peines. Je vais te laisser avec ça.
Surtout que le droit de la peine, c'est le plus dur pour les avocats pénalistes. Crois-moi.
Souvent, j'entends des avocats qui passent dans des podcasts. Toi, comme aujourd'hui, hein, tu vois. Et puis, tu nous as cité plusieurs personnes que tu avais entendues dans des podcasts aussi. Et ils reviennent sur des affaires sur lesquelles ils ont travaillé, ils parlent de leurs clients, des fois ils donnent des détails sur ce qu'ils ont pu leur révéler en privé, tu vois. Enfin, moi c'est l'impression que j'ai, genre que c'est des fois ils sont morts leurs clients et ils sont là, ils disent des détails, des trucs, genre on dirait qu'ils disent des trucs croustillants, tu vois, des trucs qu'ils ont pas révélés au moment où c'était leur client, mais qu'ils nous disent maintenant. Et du coup, j'ai l'impression que il y a un petit truc où on dirait que c'est plus confidentiel, enfin, tu vois. Genre, qu'est-ce que l'avocat, il a le droit de dire ou de pas dire? Est-ce qu'il a le droit d'aller tout dire dans des podcasts? Ça se passe comment au niveau confidentialité? Ça va jusqu'où? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a prescription peut-être sur un truc, maintenant je peux en parler ou c'est comment?
Alors, je vais rester très politiquement correcte. Je ne parlerai pas de mes confrères qui font ça. Notre secret est normalement absolu.
Ok.
C'est-à-dire même quand un client est mort, on est censé le garder. Donc, il est tellement absolu que par exemple, demain, si tu me consultes et que tu me dis, voilà, je vais tuer machin, je n'ai pas le droit de te dénoncer. Je peux que en référer à mon bâtonnier, donc Dieu, qui verra, lui, ce qu'il fait. Mais le secret est absolu.
Ok.
Maintenant, le client peut de lui-même révéler des choses sur son dossier. Dès lors qu'il l'a fait, on peut en discuter, ça, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi le procureur, le parquet, qui peut révéler des choses sur le dossier. Et là, dès lors que c'est dans le débat, on peut en discuter. Mais le secret est absolu. Normalement, on ne peut pas en être délié par la mort du client. Donc voilà. Et c'est compliqué aujourd'hui, encore une fois, lors des médias, de composer avec ça, parce qu'on a bien vu des avocats qui ont profité de la médiatisation de certaines affaires. Voilà. Mais on a d'autres avocats qui respectent jusqu'au bout le secret. Et c'est aussi une question de stratégie. Après, ça se dépend quand on se place. Est-ce qu'on a avant le procès? Est-ce qu'on a après le procès? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises dans le débat public, par exemple, par des podcasts ou des émissions d'affaires criminelles? Est-ce que le client a parlé? Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là. Mais notre secret est un principe absolu. Et moi, j'ai été à bonne école puisque j'avais été en stage en Master 2. Il y a quelques années, chez pour moi le plus grand des avocats pénalistes et mon modèle, le seul d'ailleurs, c'était Maître Hervé Temim, qui nous a quittés assez récemment, qui vivait vraiment dans le secret, mais même dans sa vie personnelle. Il nous disait que c'était vraiment important et il s'est battu pour qu'on puisse le conserver, qu'on n'ait pas à dénoncer nos clients, etc. Donc voilà, moi j'ai été à bonne école chez lui. Le seul tempérament qui existe, et tu seras surprise, c'est encore pour les sous. Si on a des soupçons de blanchiment d'argent ou de fraude fiscale, on doit en référer à notre bâtonnier qui dénonce un organisme appelé Tracfin.
Ah.
Voilà. Mais voilà, moi j'ai été à l'école d'Hervé Temi, mais moi je suis pas trop dans cette médiatisation d'opportunités, dirons-nous, au fil des faits divers. Pour moi, l'essentiel, c'est d'exercer mon métier, de bien l'exercer pour mes clients, quels qu'ils soient. Maintenant, chacun, encore une fois, met sa déontologie là où il veut. La déontologie est tellement large. Enfin, notre serment est tellement large que voilà, chacun exerce comme il l'entend, où il met ses limites. Mais le secret est censé être absolu et c'est normal aussi, parce que déjà, je t'ai dit, c'est dur de mettre une relation de confiance avec le client, parce que bah, par exemple, si c'est des affaires sexuelles, c'est compliqué de parler de ça, ou des affaires de meurtre, etc. Donc si notre secret n'était pas absolu, il se confierait pas à nous, donc il nous mentirait, donc on pourrait pas le défendre utilement non plus. Voilà, il y a toute cette question-là.
Et par exemple, si je t'ai dit, si par exemple, je suis ta cliente. Mm-hmm.
Ça ne saurait tarder, Vanny, que tu sois ma cliente.
Non, on va dire si le client, il te dit, je vais tuer quelqu'un de haut placé. Genre, je sais pas, il te dit, bah là, moi, mon projet, c'est de tuer le président ou j'en sais rien. Bref. Et bah toi, tu dis rien, du coup. Parce que voilà, tu viens de me dire qu'il fallait pas le dire. Et imagine, il le tue. Et après, quand il va y avoir le procès, le jugement, peu importe, il va dire, bah j'avais prévenu mon avocate, je lui ai dit, voilà, ça lui a pas posé problème, ou je ne sais, enfin, tu vois, il lui dit, elle le savait, par exemple. Tout le monde va te regarder et va dire, bah tu ne t'as rien dit, t'as laissé faire ça. Genre, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il va y avoir problème, là? Ils vont te dire que t'as été complice? En soi ou pas?
Non, c'est couvert par mon secret professionnel. Donc voilà, maintenant.
Ah waouh, Joker.
Moi, je t'avoue que demain j'aurais ce cas-là. Moi, j'en référerai à mon bâtonnier.
Oui, bon. Ok.
Maintenant, c'est à lui de se débrouiller avec l'affaire. Hein. Voilà, je.
Mais c'est un petit peu bizarre quand même. Si on dit je vais tuer ta voisine, juste là la voisine, bon, je vais peut-être pas le dire au bâtonnier. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. tu décides quoi, t'as envie de le dire ou pas.
Non, mais c'est des cas où j'espère ne jamais être confrontée à ça. Mais dans l'absolu, c'est ça. Maintenant, je dirais pas ce que j'en pense au fin fond de moi, mais.
Mais c'est bizarre de poser le fait que si c'est une question d'argent, de fisc et tout, dis-le à ton bâtonnier, genre c'est obligé, mais on t'oblige pas à le dire si c'est genre un meurtre.
Alors après, on a notre clause de conscience, donc moi je consulterai mon bâtonnier en disant bon bah voilà, je suis embêtée, j'ai quelqu'un qui m'a consulté, qui m'a dit qu'il allait tuer machin, enfin qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prévient. Alors après, pour le cas du président, je pense que ça relèverait un peu de la défense nationale, le bâtonnier le dirait quoi. Maintenant. Maintenant, voilà, c'est les principes. Maintenant, j'espère ne jamais avoir à les appliquer, ceci.
J'espère pour toi, mais bon, ça fait partie du métier, Clémence.
C'est ça. Non, mais on a beaucoup de responsabilités, hein. Donc, c'est pour ça que quand je vois des gens qui me disent, ouais, le pénal, c'est facile, j'ai fait 3 cours, je vais en faire, mais mon Dieu, mais non. Parce que moi, ça fait 10 ans que j'en fais maintenant. Oui, déjà 10 ans. Ça me rajeunit pas. Et j'ai pas la prétention de dire que je le maîtrise. Je suis plutôt bonne là-dedans, mais je suis pas une craque. Et on a quand même la vie des gens entre nos mains, quel que soit le côté où ils sont. Donc en plus, ces questions-là, faut quand même avoir l'air insolide, quoi. Au-delà de certaines affaires qui nous marquent plus que d'autres. Mais ouais, non, j'espère ne jamais être confrontée à ça.
Et pour finir, c'était juste une petite question là qui m'est venue vite fait. Hein. C'est comment tu fais avec tout le langage là que tu dois utiliser tous les jours, genre quand faut rédiger des lettres officielles, des comptes rendus, des machins, là faut utiliser des grands mots, la jurisprudence, la manana, enfin je sais pas, que des trucs comme ça, parce que des fois moi je reçois des lettres de Marianne là, je ne comprends que dalle, genre c'est trop bizarre de s'exprimer comme ça, enfin je peux comprendre qu'on veut garder un certain style, mais à un moment, enfin tu vois, tu peux utiliser un langage soutenu sans partir dans un langage mais incompréhensible, tu galères pas avec ça, genre
Alors, ça devient un peu ta seconde langue. Franchement, c'est automatique en réalité. Alors maintenant, je te cache pas qu'il y a des textes de loi qui sont tellement mal rédigés, ça m'est arrivé de les relire 10 fois en disant, parce que la phrase fait 15 lignes et que tu dis, ok, alors la proposition principale c'est ça, la conséquence c'est ça.
C'est qu'il y a pas besoin en soi d'utiliser ce langage-là.
Mais ça, plains-toi à l'Assemblée et au Sénat, hein, écoute. Mais non, en fait, ça devient vraiment automatique. Il y a des termes, voilà, je t'ai sorti profane une fois, tu m'as dit, mais ça veut dire quoi? Voilà.
Je le connaissais pas
c'est
avant.
C'est comme il y a des fois, je sors en tout état de cause, dont acte, nonobstant, voilà, tellement ça t'irrigue, ça fait 10 ans que tu vis là-dedans. C'est ta seconde langue, quoi. C'est un automatisme. Et puis, alors après, il y a des trucs qui sont drôles, des usages désuets. Une fois, j'avais lu les conclusions d'un confrère. Normalement, on marque rien à la fin, tu sais. On dit, voilà, ce qu'on veut comme décision. Et puis, bah, ça. Il avait marqué. Et ce sera justice. J'avais dit, ah ouais, d'accord. Tranquille, quoi. Voilà, il y a des petits usages comme ça qui sont perdus, qui sont marrants. Sinon, non, c'est vraiment un automatisme. C'est ta seconde langue maternelle, quelque part, au bout d'un moment. Après, on est obligé de garder un certain cérémonial, voilà, pour que les juges nous entendent, etc. Non, mais voilà, mais des fois, ça amène tu as raison, ça amène des petites situations assez drôles où le client ne comprend pas et... Et voilà. Mais on s'ennuie jamais dans ce métier.
On va passer maintenant à la justice américaine, parce qu'elle est quand même très spéciale. Elle ressemble un peu à celle de la France, mais en même temps pas du tout. Perso, elle me rend dingue sur beaucoup d'affaires que je traite dans mon podcast, tu le sais d'ailleurs. Et la première, c'est déjà, est-ce que toi, Clémence, tu connais un petit peu la justice américaine alors que tu es avocate française?
Alors, oui, parce que j'avais des cours, fut un temps, de système de droit comparé, ça s'appelait. Donc voilà, on apprenait le système américain et le système anglais. J'avais de l'anglais juridique aussi, on étudiait un peu ça, etc. En fait, la grande différence entre nos justices, je vais pas rentrer dans les termes barbares, hein, accusatoire, inquisitoire, vous allez rien comprendre, mais nous, on a du mal. Pour faire simple, nous, on est hérité du droit romain. En France, c'est-à-dire qu'on a un droit basé sur des lois qui sont appliquées. La source principale du droit est la loi, les textes, etc. Alors que le droit anglo-saxon est ce qu'on appelle un droit casuistique, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de lois par rapport à nous et que tout est basé sur le précédent, sur la jurisprudence, sur comment ça a été jugé dans les cas précédents. Voilà, c'est la principale différence entre les deux systèmes de droit.
Ok. Une question que je me demande souvent quand j'entends quelqu'un parler de ça, c'est pourquoi on peut pas témoigner contre son mari ou sa femme aux États-Unis.
Tu peux pas non plus en France.
Ça je savais pas, parce que justement j'entends souvent ça dans les trucs.
C'est une immunité. En France par exemple, on ne ferait pas prêter serment dire toute la vérité rien que la vérité, parler sans haine et sans crainte, c'est le serment.
Ok.
En fait, c'est tout simplement parce que tu vas mentir. Enfin, c'est ce qu'on suppose pour aider tes proches. Mmh. Donc, en France, tu peux être entendu au titre de simple témoignage, c'est-à-dire sans force probante, dirons-nous. Aux États-Unis, je crois qu'il y a quand même des cas où ils peuvent être entendus, mais alors là, ça s'est rentré trop dans la casuistique américaine. Mais regarde, aux États-Unis, par exemple, il y a aussi le cinquième amendement. Ils n'ont pas le droit de témoigner contre eux-mêmes. Ils peuvent l'invoquer quand une question les dérange en disant j'invoque le cinquième amendement.
Témoigner contre eux-mêmes, ça veut dire quoi? Genre, tu peux pas dire t'as ton déroulé des faits?
Alors, en fait, en France, tu as le droit de mentir.
Ah, d'accord.
Quand tu es accusé, prévenu, etc., tu as le droit de mentir.
Bon à savoir.
Aux États-Unis, tu commets un parjure si tu mens. Okay. Qui t'expose à une autre peine de prison, tant qu'à faire. Et nous, en France, tu peux aussi garder le silence. Voilà, bref. Pour éviter de commettre un parjure, ils disent j'invoque le cinquième amendement. C'est le droit de ne pas avoir à témoigner contre toi-même. C'est-à-dire, par exemple, tu dis est-ce que tu as tué machin? j'invoque le cinquième amendement. Sauf qu'on sait ce que ça veut dire si tu l'utilises. Voilà.
Ok.
Un peu artificiel. En France, voilà, tu as le droit de mentir et tu as le droit de garder le silence également.
Ok.
Et d'ailleurs, il vaut mieux garder le silence. Il faut écouter son avocat. notamment au stade de la garde à vue, par exemple. C'est pour ça qu'un avocat en garde à vue est très important, parce qu'en fait, vous n'aurez jamais accès au dossier, vous ne saurez pas ce qui vous est reproché, hormis ce que vous disent les enquêteurs, et vous ne saurez pas ce qu'il y a dans le dossier, hormis ce qu'ils vous disent. Donc, il vaut mieux écouter l'avocat quand il vous dit « Écoutez, on ne sait pas, on garde le silence, on attend que vous soyez présenté à un magistrat, donc c'est un proc si c'est une enquête normale, c'est un juge d'instruction si c'est une instruction, c'est les grosses affaires les plus graves, etc. Notamment les affaires criminelles. Et là, à ce stade-là, on pourra consulter le dossier, je pourrais vous dire ce que vous devez reconnaître, ce que vous devez pas reconnaître, etc. Et pareil en audience, s'il vous plaît, écoutez votre avocat si un jour vous en avez un. Parce que avec le stress, mais des fois, nos clients sortent, mais des énormités, mais des trucs de l'espace. Par exemple, tu plaides qu'il est innocent, t'es là, tu es en train de te battre depuis trois quarts d'heure. Et au dernier moment, parce que la parole est toujours donnée à la personne en dernier, il dit « je voulais dire que je suis désolée ». Et toi, tu te tournes, tu dis « t'es désolée de quoi ? On vient dire que t'étais innocent ». Voilà. Donc, il faut toujours écouter l'avocat et bien user du droit au silence. C'est tout ce que je dirais.
Mais c'est pas mal vu, parce que, genre, de demander un avocat, parce que souvent dans les films ou dans les affaires criminelles, quand ils disent « je ne dirai rien, je veux un avocat ». Et tout de suite, après, la police, elle dit « mais tu veux un avocat, pourquoi ? Parce que t'es coupable, c'est ça ?» Genre « ah bah, il veut plus parler ». Enfin, tu vois.
Ah, mais ils le font toujours. Ils le feront toujours, mais parce que les avocats, pardon, je vais parler très franchement, on est les emmerdeurs de service. Parce qu'on est là aussi pour faire respecter les droits et libertés. Donc, bien sûr qu'ils veulent pas un avocat dans la boucle. Parce que des erreurs peuvent arriver à tout le monde, surtout dans les procédures qui sont très complexes. Mais ils vont toujours dire, ah, mais tu sais, ça va être mal vu par le procureur ou par le juge. Ça veut dire que t'as un truc à te reprocher et tout. Non, vous prenez un avocat. L'avocat est là pour faire l'interface, l'intermédiaire, prendre les coups à votre place, vérifier que tout va bien, vérifier qu'on respecte vos droits. Et ensuite, pouvoir rattraper les choses, voilà. Parce que si vous avez commencé à parler en garde à vue, puis qu'après vous dites « Non, mais en fait, je l'ai pas fait », ça va être compliqué, voilà.
Ouais, mais bon, les flics, ils t'enregistrent en garde à vue ?
Que en criminel, et quand t'es mineur, pas le reste du temps.
Parce qu'après, c'est ma parole contre celle des flics.
Oui, mais si t'as un avocat, il pourra dire « Bah, monsieur a été maltraité, monsieur a été insulté, monsieur a été, par exemple, injurié, un jour à caractère raciste ou quoi, voilà ». Nous, on est là pour faire le garde-fou aussi.
Donc, peu importe ce qui t'arrive, que tu l'aies fait ou pas, dès que t'arrives dans le... Je sais même pas comment ça se passe. Dès que t'arrives chez les flics, genre qui te font descendre de ta voiture avec les menottes et te mettent dans la salle, là, je sais pas quoi, là, bah tu dis « j'ai un avocat ». Et je dis rien d'autre.
En fait, dès que tu es arrêté en France, on te notifie tes droits,
ah,
que tu as le droit d'exercer pendant la garde à vue. Donc, tu as, bon, je vais pas te citer, mais faire prévenir un proche, faire prévenir ton employeur, un examen médical et le droit à l'assistance d'un avocat.
Ok.
On dit, oui, j'en veux un. Et si vous en connaissez pas, c'est pas grave, vous dites que vous en voulez un commis d'office, parce que contrairement à la croyance populaire, on va aussi démonter un mythe, il y a beaucoup de commis d'office qui sont très bons. C'est les avocats de permanence dont je vous parlais l'autre jour. Je vous ai dit, à Paris, on doit carrément passer un concours pour être commis d'office. C'est, entre guillemets, les...
Bah, c'est bien.
Enfin, les meilleurs. Si on exclut les bugs. Bref, en tout cas, on est compétents pour être commis d'office. Donc, il faut toujours prendre un avocat parce que nous,
d'accord,
on peut sauver des dossiers aussi sur des nullités de procédure. C'est la réalité.
Prenez un avocat, bordel. Écoutez, on vous le dit là, on vous le dit, prenez un avocat tout de suite. Là, si vous nous écoutez en garde à vue, prenez un avocat. Enfin, je sais pas si vous nous écoutez en garde à vue.
Ça va être compliqué en garde à vue, effectivement.
L'autre chose qui me rend dingue, c'est quand il y a un tueur ou une tueuse dans une affaire criminelle aux États-Unis qui plaide non coupable et immédiatement, alors qu'il y a une montagne de preuves, l'ADN, la vidéo de la personne en train de déchiqueter l'autre au couteau en HD 4K, ben non, juste parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas coupable, on fait appel à un jury. Donc il y a des gens qui s'y connaissent pas du tout en justice ou en affaires criminelles, ben, des gens lambda quoi, comme ton voisin qui est jardinier ou ta monitrice d'auto-école qui va être appelée à venir décider du verdict. Alors qu'on a absolument toutes les preuves qui montrent sa culpabilité, tu vois. Et je comprends pas, parce que c'est illogique, genre juste parce que la personne a dit « Non, je suis non coupable ». En fait, ça leur offre une porte de sortie parce que souvent, dans les affaires, après, bah ils arrivent à l'innocenter ou à dire je sais pas quoi. Enfin bref, ça se passe d'une manière où au final, ils sont avantagés. Alors que ils avaient la police et tout, ils avaient tout sous la main. Enfin, la justice, là, ils avaient tout sous la main pour prouver que c'était lui. Mais non, ils s'en remettent aux compétences du jardinier et de la monitrice d'auto-école. Enfin, c'est bizarre. Genre, c'est comme si tu jettes tout par la fenêtre. Et puis, tenez, vous, là, venez là, c'est vous qui décidez. Juste parce que l'autre, là, il a dit, je suis pas coupable. Enfin, je trouve ça trop bizarre.
En fait, ça...
Voilà. C'était pas une question du tout, mais vas-y.
ça renvoie à l'essence même de nos grands principes de procès. C'est-à-dire que chacun a le droit de faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et avoir un procès équitable. Voilà, donc c'est comme ça en France, c'est comme ça dans l'Union européenne, c'est comme ça aux États-Unis. Chacun a le droit d'avoir un accès à un tribunal et d'être jugé par un tribunal. Voilà, et en fait, ça rejoint ce que je te parlais, la présomption d'innocence. Voilà. C'est tout simplement ça. Et alors le standard aux États-Unis de la présomption d'innocence, c'est au criminel beyond a reasonable doubt. Donc ça veut dire au-delà de tout doute raisonnable. Donc voilà. Donc si on estime qu'il peut y avoir un doute, parce que ce que t'as dit, c'est vraiment le cas idéal. Alors l'ADN, on a déjà vu toutes les deux que c'était pas super probant. voilà, que non, ce n'est pas la reine des preuves, ce n'est pas 100% sûr, parce qu'il peut y avoir des mélanges d'ADN, parce qu'il peut y avoir du transport d'ADN, etc., etc. Ou alors, si c'est comme dans l'affaire Rebecca Zaho, on a utilisé un seul coton-tige, n'est-ce pas, Vanille? Voilà.
Donc... petit shout-out pour le Patreon, parce que l'affaire Rebecca Zaho est... l'ADN, on en a parlé dans mes exclus Patreon, c'était avec pour l'affaire Dyatlov, Clémence, j'avais fait un complément avec elle, vous pouvez l'écouter en plus là-bas sur Patreon, et elle nous avait parlé en détail de l'ADN, pourquoi c'est de la merde et que ça ne sert à rien.
Alors non, ça ne sert pas à rien, mais il faut qu'on arrête de dire que c'est la reine des preuves et que c'est à 99,99999% sûr, c'est faux.
Ouais, ouais.
Voilà, il faut qu'on arrête avec ça. C'est comme avant, on disait l'aveu est la reine des preuves. Oui, ben on sait que l'aveu est la reine des preuves avant l'ADN. Ouais, ben on savait que il y en a plein qui avouaient sous la pression des policiers, voilà, et que on ne sait pas. Hein, des fois, des gens ils sont tellement stressés, ils disent oui, c'est moi, ils pensent qu'ils vont sortir, hein, comme pour le cas Patrick Tillis, etc. Voilà. Donc l'ADN, déjà, on sait ce qu'on en pense. Tu m'as dit vidéo 4K. Je suis pas sûre niveau vidéo surveillance. Voilà.
Oui, bon, t'as compris.
Donc là, tu m'as présenté le cas idéal. Mais en réalité, il y a toujours des doutes, il y a toujours du parole contre parole. Enfin, c'est super rare qu'on ait... Et puis voilà, cette question d'ADN, en fait, de plus en plus, elle vient dans le débat et de plus en plus, elle est remise en cause. Même si, bon, les juges ne nous écoutent pas trop, malheureusement. Mais c'est le cas, donc voilà. Chacun a le droit à un procès, chacun a le droit d'être jugé par ses pairs, de voir sa cause entendue par un tribunal et pas juste d'avoir un accord. En France, d'ailleurs, on peut pas faire ça, par exemple, pour les matières criminelles. Nous, on a ce qu'on appelle la CRPC, c'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est pour certaines peines, certains délits, enfin bref, je vais pas te faire la liste. Mais ça n'existe que pour certains trucs. C'est te dire à quel point on est attaché à cette question de d'être présenté à un tribunal de façon impartiale et de pouvoir voir sa cause entendue et ses pairs juger. D'ailleurs, je pense à un truc que t'as dit, alors toujours dans le Patreon, dans l'affaire Rebecca Zaho.
Spoiler alerte.
T'avais posé la question pourquoi genre il était acquitté au... Je crois que c'était le frère de son mec qui était acquitté au pénal et qui était reconnu coupable civil.
Ah oui.
Alors ça arrive beaucoup aux États-Unis par rapport justement aux standards de preuve. Je t'ai dit que au criminel aux États-Unis, c'est beyond a reasonable doubt, donc c'est au-delà de tout doute raisonnable, alors que au civil c'est preponderance of evidence, c'est-à-dire la somme des indices. C'est pas du tout la même chose de condamner quelqu'un avec un faisceau d'indices concordants ou au-delà de tout doute raisonnable, c'est pas la même force de conviction, tu vois. Donc c'est comme ça que on peut estimer que tu as pu avoir une responsabilité dans ce qui est arrivé en commettant ou peut-être en laissant traîner, dirons-nous. Comme là par exemple, je te dis n'importe quoi, peut-être qu'il a mis du temps à la décrocher. Voilà, hein. Dans ce cas-là, ben c'est comme ça qu'on peut être reconnu coupable au civil et être acquitté au criminel aux États-Unis. Ça en France, ça n'existe pas. Alors si, il y a des petits cas où effectivement, on peut aller au civil pour des responsabilités, mais bon, on a moins cette mentalité-là en France.
Ouais, je sais pas, parce que je suis d'accord, hein, ils ont le droit d'avoir accès à trucs de la justice et tout. Mais c'est juste, je comprends pas la petite parade d'avoir le choix de dire je suis coupable ou je suis pas coupable, parce que dans le cas où ils sont pas coupables, après ça change la, j'ai l'impression que, enfin ça change la procédure, c'est-à-dire on se base plus, on s'en fout des preuves, et puis là bah on demande l'avis des gens.
Alors la différence tient aussi au système américain, c'est-à-dire que nous quand tu arrives au procès, tout est fini au niveau de l'enquête ou de l'instruction, c'est-à-dire que ça bougera plus, le dossier est en l'état, il est figé. Tu vois. Alors qu'en fait, aux États-Unis, le procès s'ouvre tout de suite derrière les faits, un ou deux mois après, ou tout de suite derrière d'ailleurs. Et en fait, l'enquête se fait vraiment au moment du procès. Tu vois ce que je veux dire? T'as les petits trucs qui ont été récoltés sur l'instant T, mais après, tout se fait pendant le procès. Donc, ça tient aussi à ça. Maintenant, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il y a tellement d'esprits brillants que t'es pas à l'abri d'avoir été piégé non plus, tu vois. Non, je me suis toujours posé la question. Jusqu'à récemment, l'ADN, je te dis n'importe quoi, pour l'extraire d'un cheveu, il fallait avoir le bulbe du cheveu. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut correctement extraire de l'ADN. Bon, c'est de l'ADN mitochondrial, celui qui vient de la mère, mais bref, on peut faire maintenant des parentés, etc., un peu comme un arbre généalogique. Et je me suis toujours posé la question, tu sais, genre les perruques en vrai cheveux.
Ouais.
Mais c'est le meilleur truc pour commettre un meurtre idéal. Si tu mets ta perruque en vrai cheveu, tu laisses un des cheveux. Autant c'est l'Indienne qui a donné ses cheveux qui va être embêtée, tu vois.
Mmh.
Donc aujourd'hui, avec toute, on s'en remet tellement à la biologie qui pourtant n'est pas sûre non, c'est encore plus logique d'avoir le droit à un procès, même quand tout semble te désigner, parce que tu peux avoir été piégé par ta téléphonie, par ton ADN. Je te dis, il y a l'ADN de transport. Voilà, quelqu'un peut par exemple avoir pris ton ADN, je fais n'importe quoi, sur du scotch et le déposer ailleurs, ou avec des gants. Il t'a touché, il le dépose ailleurs. Il peut prendre ton téléphone à ton insu et l'amener sur le lieu du crime, parce que la téléphonie aujourd'hui a une grande importance, tu vois, encore plus aujourd'hui qu'avant.
Ouais, je vois. C'est parce que moi, dans ma tête, tu vois, quand je te pose mes questions, j'ai des affaires en particulier dans ma tête. Et du coup, je pense pas trop en généralité, mais par exemple, O.J. Simpson, oh non, je suis pas coupable, nanana. Tiens, essaye le gant. Ah, ça te va comme pour Cendrillon avec sa chaussure en verre, là.
If it doesn't fit, you must acquit. C'était ça, la phrase. Son avocat, c'était Johnny Cochran, et il avait dit, if it doesn't fit, you must acquit. Sauf qu'on n'avait pas tenu compte du fait que le gant avait rétréci avec le sang qui avait séché, donc il pouvait plus l'enfiler. Mais bref.
Oui, mais là, il a réussi. Hein. Il avait bien réussi. Il avait juste fait semblant.
Non, il avait pas réussi.
Bah, il y a la photo. Il a le gant et il est en mode.
Oui, enfin, il disait qu'il faisait aller sa main. A... Ouais.
Enfin, je sais pas. Moi, je.
Oui. Bref. On avait dit qu'il faisait aller sa main.
Oui, c'était oui. Il faisait, voilà quoi.
Qui serrait le poing et tout pour pas que ça rentre. Bref. Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, je l'ai étudié l'affaire O.J. Simpson. Eh, je suis pas aussi catégorique que toi.
Écoute.
Hein.
Moi aussi, je l'ai étudié en live sur Twitch avec mes 5 viewers.
Mais il y avait la super série The People versus O.J. Simpson.
Oui, je l'ai vu. Ouais.
Et c'est vrai que quand tu regardes la série, t'es assez convaincu que c'est O.J. qui l'a fait. Mais moi, quand je l'ai étudié, j'étais pas si sûre que ça, en vrai. Parce qu'il y a toute cette question raciale et tout.
Mais après, moi, j'ai lu aussi les 5 premières pages de son livre. C'est aussi du foutage de gueule. Hein.
Après, t'es aux États-Unis. Hein. Business is business, money is money. Hein. T'es aux États-Unis. Hein.
Oui, oui, non, mais bon. Pff, bref. Écoute. Je voulais aussi parler d'une technique aux États-Unis. Enfin, une technique. Une pratique très étrange. Je voulais savoir si t'en avais connaissance. Pour des avocats qui sont censés être des gens super intelligents et éduqués, blablabla. Ou en tout cas qui ont une éloquence et qui ont des capacités intellectuelles. Il y en a qui ont recours à des stratégies complètement dramatiques pour essayer d'acquitter leurs clients super coupables.
Mm-hmm.
Et à ce qui paraît, il y a un nom. C'est même dans le dico, mais j'ai pas réussi à retrouver l'expression. Un terme, je sais plus, un truc genre, ouais, la technique popcorn ou la technique, je sais plus ce que c'est. Pour vous donner un exemple, j'avais fait un épisode, l'épisode 22, plus précisément, sur l'affaire Sarah Stern. Donc, pour rappel, c'était une jeune fille qui s'est fait tuer par son meilleur ami d'enfance, qui voulait lui voler son fric, c'était 10 000 balles. Celui-ci, il a été filmé en train bon, c'était pas en 4K, hein. Il a été filmé en train d'avouer le meurtre de A à Z à son pote dans une voiture. Parce que la police lui avait dit, bah, va essayer de lui poser des questions dans la voiture, tu iras avec des mouchards, on mettra une caméra, etc. Bon, je sais même pas comment ils ont fait, parce que c'était un peu à l'époque et tout, mais je me demande comment c'était pas visible une caméra, mais bref. Et donc, il a été filmé en train d'avouer le meurtre de A à Z à son pote, et son avocat a eu le culot de dire, aux jurés et à tout le monde, enfin bref, que c'était pas une vidéo qui montrait une confession, mais c'était une vidéo dans laquelle son client était en pleine prestation d'acteur parce que c'était pour une audition de film Hollywood. Voilà. Et genre, déjà, tu passes comme quelqu'un de ridicule parce que personne n'y croit. Parce que c'est tellement con, enfin, tu vois. Après, peut-être sur un malentendu, les Américains peuvent y croire. Je ne sais pas, hein, parce que des fois, on dirait que les jurés, ils sont... voilà quoi, t'as compris, ils sont un petit peu débiles, on dirait qu'ils se font manipuler. Parce que justement, je trouve que les avocats aux États-Unis, ils mettent le show un peu, tu vois, genre, ils vont voir les jurés, enfin les jurys, le jury, les jurés ou le jury.
Oui, c'est parce que tout se passe au procès, comme je t'ai dit, ils peuvent encore plus renverser la donne, alors qu'en France, on a quand même le principe du contradictoire où on est censé, voilà, produire ses pièces à l'autre, au tribunal. En fait, ça n'existe que dans les séries quand on dit « Mais j'ai cette pièce qui vient d'arriver !» Voilà, c'est que dans les séries. Ouais, alors, j'aurais pas une réponse, comment dire, claire, établie, etc. Je peux te donner des pistes de réflexion. Déjà, j'ai envie de dire, cette affaire-là, t'as pas besoin d'avoir d'ennemis quand t'as des amis comme ça, quoi. Merci, meilleur ami. Je sais pas dans quelle mesure, en réalité, les avocats américains sont tenus par leur mandat avec leurs clients, tu vois. Je me demande, je pense que c'est un peu plus fort que chez nous. Et je crois qu'ils ont du mal à pouvoir se déporter d'une affaire. Moi, ça revient à ce que je t'expliquais. Je peux faire jouer ma clause de conscience en France. On peut dire, voilà, on n'est pas d'accord avec le client, etc. Mais bon, tu vas pas le lâcher en plein procès ou la veille du procès. C'est pas possible non plus, tu vois. Faut pas contrevenir à l'exercice de ses droits de sa défense.
C'est plus ta réputation, quoi, qui joue et tu vas passer aux infos. Et puis, tu sais, t'as tes pubs, parce que là, ils peuvent faire des pubs là-bas et tout. Je pense que c'est ça, en mode pour montrer que t'as tout donné pour ton client. Même à mentir ou à trouver des trucs bizarres à dire, genre vraiment, tout ce que tu peux trouver, ça va servir. Genre.
Je te dis, je crois qu'ils sont davantage liés que nous par la stratégie du client. Ouais. Parce que nous, on est quand même liés par la stratégie du client. Si entre guillemets, t'es pas d'accord, tu peux pas aller contre son avis, tu te déportes. Voilà. Ou t'essayes un peu de le raisonner, mais voilà, on n'a pas le droit de dire, bah non, je peux dire ça, je vais dire ça, ça te va, c'est bien, ça te va pas, c'est pareil. Voilà, on n'a pas le droit parce qu'on a un mandat. Les mots ont un sens. Voilà, ils nous mandatent pour le représenter. Donc, pour faire ce qu'il veut, quelque part.
Ouais, ouais.
Je crois qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus fort, quand même, cette question-là. Et maintenant, t'as dit, tous les avocats sont compétents et tout et tout. Je pense que ça tient aussi à la personnalité de certains, parce que moi, j'ai déjà vu des défenses. En France, hein, pas aux États-Unis. J'étais là, ça va être compliqué, quand même, là. Parce que c'était un truc, mais... Mais ils comprenaient même pas qu'ils se tiraient une balle dans le pied en disant ça. Tu vois, donc non, ça peut arriver partout. Maintenant, je pense qu'aux États-Unis c'est différent parce que comme tu as dit, c'est un peu un show, quoi, le procès et tout se passe au procès. On peut faire des effets de manche, faire basculer.
Ouais.
Et je pense qu'ils sont un peu plus tenus par l'idée du client, voilà. Par exemple, voilà, on a parlé d'O.J. Simpson, cette fameuse phrase, on en parle encore alors que c'était quand on était né, quoi, concrètement cette affaire, ou même avant, je crois, du gant. Voilà, on en parle encore. C'est vraiment le show à l'américaine. En France, on ferait pas ça. Voilà, donc je pense que c'est aussi intimement lié à ça. Maintenant, oui, il y a des avocats qui sont pas bons et moi, voilà, je dis, je cherche la cohérence. Il y en a, ils la cherchent pas et même en France, c'est pas une spécialité de l'oncle Sam, pas du tout. Et d'ailleurs, par exemple, vous en avez un bon exemple dans la série qui s'appelle Bull, donc BU2L, où en fait, c'est une boîte de sciences du procès qui montre un peu comment prédire les réactions du jury, les influencer sans être accusé d'influencer le jury. Enfin voilà, par exemple, il y a ça. Après, il y a aussi la question que voilà, on a accès à qui est dans le jury et ils remplissent un questionnaire de je ne sais plus combien de centaines de questions pour les connaître, alors que nous, au final, en France, quand on tire au sort les jurés, on les choisit pas, en fait, on les tire au sort. On a juste le nom, l'âge et la profession, je crois. Et on a un droit de récusation limité. Ça peut pas être comme aux États-Unis où ils mettent 2 mois à choisir un jury. Voilà. Il y a aussi ces questions-là.
Ouais, parce que genre, ils cherchent à avoir des gens, enfin, ils montent un jury par rapport à l'affaire. Genre, des fois, j'en ai vu, ils avaient déjà des gens choisis, puis chacun leur tour, ils devaient dire, ils leur posaient des questions, genre, est-ce que vous avez des gens qui ont déjà fait de la prison dans votre famille? S'ils disaient oui, on va pas te prendre.
Alors qu'en France, ça n'existe pas.
Bah, au final, c'est trop bizarre. Ça veut dire que c'est toi qui choisis, au final, le verdict, si tu prends des gens que tu sais qui vont, tu vois.
Ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire que, comme je te dis, on a juste la liste avec nom, prénom, âge et profession. Je sais plus si t'as lieu de résidence, j'ai un doute. Et en fait, on n'a aucunement le droit de les questionner. Et juste, on a déjà élaboré la stratégie d'avance et on a un droit de récusation qui est très limité. 3 ou 4, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails.
C'est quoi récusation?
C'est de dire, ils virent. Je veux pas dans le jury.
Ah,
quoi.
Okay.
Et ça, c'est accordé à la défense et à l'avocat général, donc le procureur aux assises. Et en fait, c'est à nous de préjuger, entre guillemets, puisqu'on n'a pas accès à ce questionnaire, on peut pas poser de questions, de dire, je te dis n'importe quoi, par exemple, c'est une femme qui a tué son mari qui a 50 ans, bon bah on va éviter de prendre un mec qui a le même âge à peu près. Voilà, on va éviter de prendre quelqu'un comme ça dans le jury. On va peut-être éviter de prendre une femme plus âgée aussi, qui peut-être avait plus des conceptions de voilà un peu patriarcale, etc.
Ouais, bah oui.
Voilà, mais on peut pas leur poser de questions en réalité. Et nous, on a le droit de les récuser jusqu'à ce qu'ils s'assoient sur leur siège de juré. Et on n'a pas justifié. On dit juste récuser. Et la personne s'en va. Et elle sait pas pourquoi. On n'a pas justifié.
C'est
complètement différent les stratégies.
Ouais, parce qu'aux États-Unis, des fois, ils vont carrément faire des trucs. Ils vont choisir. On va prendre 6 blancs. Tu vois, 2 noirs. Enfin, tu vois. Enfin, faut se calmer un moment sur les critères.
Ben justement, l'affaire O.J. Simpson, ils avaient dû délocaliser le procès parce que c'était à, je sais plus, Santa Monica ou Santa Barbara, bref, où il y avait quasiment que des personnes de race blanche alors que c'était un noir, voilà. Donc on avait déplacé le procès parce qu'il y avait eu les émeutes de Rodney King, etc. Enfin, voilà, et pour qu'il y ait des noirs dans le jury. Voilà, et ça, ben, en France, ça n'existe pas. Hein. Alors si, délocaliser un procès, ça nous arrive quand c'est des affaires qui ont vraiment eu une émotion particulière, pour avoir un jury qui est pas forcément de la région, qui connaît peut-être pas le notable du coin, qui pourrait être accusé, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on n'est absolument pas du tout dans les mêmes conceptions entre la France et les États-Unis.
Avant de passer aux questions des auditeurs, je voulais que tu nous dises aussi quelles sont les choses, les idées reçues les gens ont souvent à cause des films. Genre, tu m'avais dit que on disait pas objection en France. Enfin voilà quoi. Est-ce que tu connais, il y a d'autres trucs comme ça?
Ah bah oui, objection, votre honneur.
Ah ouais.
Il y a justement, il y en a qui nous sortent le 5e amendement en France. On dit oui, bien sûr. Voilà. Objection, ça n'existe pas en France. Voilà.
Jurer sur la Bible non plus?
Non, je jure pas sur la Bible puisqu'on a un État laïque avec la séparation de l'Église et de l'État.
C'est bizarre que les États-Unis, ils ont pas fait de séparation.
Mais tu sais qu'on est un des seuls pays où il y a une séparation où on est laïque. Hein.
C'est vrai?
Bah, même, regarde, tu as eu le couronnement du roi Charles III il y a un mois à peu près. Il est couronné en l'abbaye de Westminster et il prête serment à Dieu aussi. En fait, la plupart des États sont encore un mélange entre la religion et l'État. En France, nous, on prête des serments, comme je te dis, par exemple, parler sans haine et sans crainte, dire toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Nous, c'est des serments un peu citoyens, quelque part. Non, je ne repasse pas sur la Bible. Votre honneur, ça n'existe pas, c'est madame ou monsieur le président, ou la présidente, si tu veux féminiser. Madame, monsieur le procureur, la procureure, voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, d'ailleurs, voilà, par exemple, une différence États-Unis-France, c'est pas des avocats, les procureurs. Parce que là-bas, c'est le bureau du procureur, c'est des avocats qui travaille pour lui. Mmh. Donc là, pas du tout. Là, le procureur est un magistrat professionnel en France qui dépend du ministère de la Justice, etc., qui applique une politique pénale. Le 5e amendement, j'ai bien dit, ça n'existe pas en France. Donc, tu te tais si tu veux pas répondre. Voilà. Il y a aussi... Mais même les fictions françaises sont pas top là-dessus. Par exemple, ça m'hérisse le poil quand j'entends « il a été inculpé ». Alors, comment dire ? On dit mise en examen depuis 1994. Ça fait quand même quelques années. Voilà. Mmh. Ou par exemple, ça me fait rire quand on voit des salles d'interrogatoire dans les fictions françaises. Je peux vous dire que la plupart du temps, on a entendu dans le bureau du flic avec trois flics autour. Voilà. C'est les salles d'interrogatoire, c'est rare. Voilà. Il y a beaucoup de fantasmes. En vrai, ce serait bien des fois que ce soit comme dans les séries, mais non. C'est pas comme ça.
Bah, ça, tout ça, je savais pas. Même votre honneur, je pensais qu'on utilisait Ah non, c'est madame la juge, monsieur le juge,
non,
peut-être.
Madame ou monsieur le président si t'es à l'audience. Et par exemple, si t'es présenté au juge d'instruction, c'est madame, monsieur le juge.
Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, vous savez maintenant. J'avais une question parce que j'avais lu une fois quelque part que tu peux pas être condamné deux fois. Et que, genre, par exemple, je prends une affaire, par exemple, je me répète, c'est que il y avait quelqu'un qui avait été... jugé pour le meurtre d'une jeune fille, je crois, et en gros, il y avait pas assez de preuves à cette époque-là, et donc du coup, il l'avait jugé, jugé non coupable, il l'avait acquitté, et en gros, ils se sont rendus compte plus tard, genre, je sais plus, avec les ADN que tu n'aimes pas.
J'ai pas dit que je les aimais pas, j'ai dit qu'il fallait les prendre avec précaution et ne pas les considérer comme des preuves irréfutables.
Et ben là, dans ce cas-là, en gros, ils avaient réussi à prouver que c'était bien cette personne-là qui avait tué la personne, mais du coup, bah, elle s'en était sortie innocente, tu vois, et on pouvait pas condamner une deuxième fois pour la même chose. Donc, en gros, bah, il s'en est sorti parce qu'à ce moment-là, bah, voilà, il y avait pas les preuves et tout. Mais ils vont pas pouvoir le rejuger et espérer qu'il aille en prison cette fois-ci, genre, peut-être 20 ans plus tard, tu vois. Ou 15 ans, ou.
Alors, oui et non. J'ai l'impression de passer mon temps à dire ça dans ton podcast. Alors, disons que si le dossier est exactement le même qu'à l'époque du jugement, il n'y a rien de nouveau, on ne peut pas le rejuger. Ça, c'est sûr. C'est la règle non bis in idem. On ne peut pas être condamné deux fois pour les mêmes faits. Donc voilà. En revanche, il y a ce qu'on appelle la réouverture d'informations sur charge nouvelle. Donc, quand t'as des éléments qui n'étaient pas connus à l'époque, qui permettent de réouvrir le dossier. Mais là, encore une fois, ça passe devant une commission qui estime si l'élément est sérieux ou non. Ça remet en cause la culpabilité ou l'absence de culpabilité qui avait été décidée. Ça rejoint un peu la procédure de révision dont je t'avais parlé. Voilà. Donc, dans l'absolu, s'il y a rien de nouveau dans le dossier, non. Maintenant, s'il y a un nouveau témoignage, s'il y a de l'ADN, etc., on peut faire une demande de réouverture où il y aura un nouveau jugement au regard de ces nouveaux éléments qui étaient inconnus au moment du procès.
Moi, comme tu es mon avocate, je dirais, écoute Clémence, on m'a déjà acquittée. Genre, c'est écrit sur le papier, j'étais jugée pour ça. On m'a acquittée, la décision a été prise. On ne peut pas être condamné deux fois pour le même crime. Que vous ayez des nouvelles preuves ou pas, Clémence, démerde-toi pour leur dire « Je ne peux pas être condamnée cette fois-ci.
» Bah, il faudra jouer sur la force probante des nouveaux éléments apportés. Voilà.
Oui, mais on peut aussi juste garder le truc en latin, là, que t'as dit, et dire « Bah non, c'est pas du tout.
Malheureusement, tu sais, je vais te sortir une phrase que je sors à beaucoup de clients qui me demandent beaucoup de choses, et pourtant, je pense que tu as vu et que tes auditeurs ont vu que je suis très impliquée dans mon travail et pour mes clients. Je fais pas encore mon miracle. C'est pas moi qu'il fallait voir, c'est un prêtre pour ça. Voilà, je veux bien faire au mieux, je veux bien faire tout ce que je peux. Mais je suis aussi tributaire que mes clients de la justice et de son fonctionnement. Voilà.
Un autre truc, avant qu'on passe aux questions des auditeurs. Il y a une série super intéressante, mais que je vous avoue, je n'ai pas fini sur Netflix parce qu'elle me met mal. Elle s'appelle Innocent Tapes. Innocent Tapes. C'est dur avec deux T. Où en fait, c'est une série sur des gens. Bon là, c'est de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être des affaires de meurtre, des affaires criminelles et tout. Et genre, c'est des gens qui sont innocents et la police leur torture le cerveau, les force à faire des fausses révélations, des fausses confessions. Et c'est super dur à regarder. Enfin, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est super dur à regarder parce que les gens, ils doutent d'eux-mêmes, ils sont là, ils disent « Ah bah oui, enfin, en fait, c'est trop trop bizarre. » Et en fait, je me demandais, est-ce que ça arrive beaucoup aussi en France parce que aux États-Unis, il y en a des tas, hein, des gens innocents en prison, par cette technique. Est-ce que ça arrive aussi en France ou que la police fasse pression genre sur les gens ou pas du tout?
Alors, oui. Oui, bien sûr que ça arrive en France. Encore une fois, c'est pas une spécialité américaine. Il faut bien comprendre que, voilà, tout le monde peut dire, non, mais moi, j'avouerai pas n'importe quoi. Enfin, voilà, dans notre petit confort de chez nous, etc. Mais par exemple, quand on vient vous tirer hors du lit à 6 heures du matin, que vous êtes en caleçon, en petit pyjama, qu'on vous met des menottes, qu'on vous amène dans une cellule qui sent la pisse, qui est insalubre, qui a de la moisissure, où il y a des cafards, où des fois d'ailleurs vous pouvez choper la gale. Oui, ça existe encore. On a des clients qu'on va voir qui ont la gale. Autant vous dire qu'on met 5 mètres entre lui et nous, autant qu'on peut. Voilà, vous l'avez pas pendant suivant combien de temps dure votre garde à vue, 24, 48 heures, vous pouvez pas vous brosser les dents. Pour manger, on vous apporte un sandwich triangle qu'on a sur les autoroutes, voilà. Clairement, vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions que aujourd'hui quand vous nous écoutez. Donc, on peut craquer, voilà, on est fragile psychologiquement. Alors en plus, je dis n'importe quoi, imaginons que vous avez une dépendance, quelle qu'elle soit, par exemple, fumer, c'est une dépendance. Ben, on vous laisse pas fumer votre clope comme vous avez envie, alors qu'il y a des très gros fumeurs. Il y a des gens aussi qui peuvent avoir besoin d'alcool, ben, ils vont pas boire, hein, ou des gens qui ont des dépendances à des stupéfiants, et pareil. Voilà, il y a toute cette question-là, on n'est absolument pas dans un état d'esprit... normal, réfléchi, posé, etc. Et puis il y a des clients, des fois il y a des trucs qui leur passent par la tête. Voilà, j'ai déjà vu le cas où on m'a dit oui, mais maître, je sais que j'ai pas fait, mais je me suis dit qu'en reconnaissant peut-être un petit peu, on allait être plus sympa avec moi. Voilà, on ne sait pas ce qui leur passe par la tête ou dans le stress, ils peuvent reconnaître des trucs qui sont déconnectés du contexte, par exemple. Donc, il y a toutes ces questions-là où, effectivement, et puis, voilà, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, la police respecte tout. Alors, encore une fois, je vais pas leur tirer dessus, parce qu'il y a, des policiers très bien, il y a des policiers avec qui je suis en pleine coopération, ou des gendarmes, hein, j'utilise le terme générique, où on peut tout à fait être en partenariat avec eux. Il y en a d'autres où... Voilà, c'est des pourris, c'est une minorité, mais qui respectent pas ça et qui sont à l'ancienne. Les violences policières, ça existe, les pressions, ça existe. Par exemple, on vous dit, prends pas d'avocat, garde pas le silence, c'est sûr que t'es coupable si tu fais ça. Voilà, il y a tout ce contexte-là.
Ouais, parce que en fait, tu sais, quand on regarde cette série, on se dit, mais moi, je ferais jamais ça. Enfin, c'est pas possible les trucs qu'ils leur font dire. Genre, si on vous dit là demain, ouais, mais si, t'as tué ta voisine, tu l'as décapité, t'as mis sa tête dans un seau, t'as fait du thé avec, tu l'as vendu à tout le quartier.
Ah, tu nous parles de Sylvie Revirico, là. Tu l'as décapité, tu l'as mis dans un seau.
Attends, j'ai poussé l'histoire, j'ai dit, t'as fait du thé avec l'infusion, avec l'eau et tout. Bref, t'as vendu à tout le quartier, t'as. Et les gens, ils vont se dire. Et toi, tu te rends pas compte que la police, elle va te forcer et il y a de grandes chances que tu vas dire oui, j'ai fait ça, j'ai mis la tête dans le seau, j'ai bu le thé, j'ai fait le boire sous mes voisins, nanana. Enfin, tu vois, genre, et c'est ça qui est fou, en fait.
Mix, Revirego, Leonardo da Vinci. J'aime beaucoup le mix.
Non, mais t'as compris. En fait, je voulais, c'est des trucs, en fait, ils leur font avouer des trucs super abusés, genre vraiment dans les détails,
oui,
tu vois.
Oui, mais même toi.
Oui, mais même moi, même
mais,
moi.
Même
oui,
toi, si on te pose mais 50 fois la même question. Au début, t'es sûr de toi. Tu dis, bah non, enfin non. Mais même, pas hors garde à vue, hein, je te parle. Et puis au bout de la 25e fois, tu te dis, purée, si on me la pose autant, peut-être que je me suis trompée. Peut-être que... Puis à force, tu en viens à douter de toi-même. Voilà. Par exemple, même quand tu vas déposer plainte en tant que victime, si on te fait répéter ton récit mais 150 fois, bah, au bout d'un moment, tu peux douter de certaines choses.
Ouais.
Voilà, donc c'est des techniques après. Hein.
Je me demande après, en prison, tu sais comment ça se passe quand tu t'es en prison et tout, tu te dis mais putain, mais genre il y a pas un moment où parce qu'il y a plein de gens aux États-Unis après ils sont incarcérés et tout, tu vois. Ce que je veux dire c'est que genre il y a pas un moment où tu craques, genre où tu dis à tout le monde mais attendez, c'est pas du tout ce que j'ai. Enfin, on dirait que tu vois quand tu regardes ces épisodes-là, cette série-là, ils te montrent tout le processus judiciaire. Et ce qui rend dingue, en fait, c'est que oui, sous la pression et tout, t'as dit des trucs à la police, mais tu te dis, mais attends, mais après, là, t'avais l'opportunité de te réveiller. Après, genre deux semaines après, on dirait qu'ils continuent, ils sont matrixés jusqu'en prison. Et c'est là que peut-être en prison, ils se disent, ah non, je vais contacter le service, là, justement, qui essaye de libérer les gens innocents et tout. Mais genre, tu les vois, ils sont là, tous les gens, tout le long de la procédure, ils continuent à garder cette version. Je trouve ça dingue, en fait. Genre, que tu craques pas plus tôt, genre, je sais pas moi, le lendemain.
Ah non, mais même en France, mais il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, au final.
Ouais, c'est dingue.
Mais regarde, je reprendrai l'exemple de Patrick Dils. Donc, pour tes auditeurs, il avait été accusé du meurtre, qu'on disait, de Montigny-Metz. C'était deux petits enfants qui avaient eu le crâne fracassé à coups de pierre. On disait que potentiellement il les aurait tués parce qu'il était passé en vélo en fait sous un pont où les gamins lui auraient balancé des pierres dessus. Mais à l'époque, on pensait que c'était peut-être lui. Et en fait, il y a une série d'ailleurs incroyable qui avait été faite en deux parties sur lui, qui s'appelait « Je voulais juste rentrer chez moi ». Où en fait, il est tout jeune. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue, parce que c'est assez récent aussi, hein. Il n'y avait pas des garde-fous exceptionnels pour les mineurs, etc. Et le policier lui disait « Non, mais avoue, et ce soir, t'es chez toi. » Et lui, il avouait pour rentrer chez lui, parce qu'il avait 16 ans. Voilà, en fait, ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Et malheureusement, une fois qu'on a commencé à avouer, la machine judiciaire est inextricable. C'est très compliqué de revenir en arrière et c'est encore pour ça que je dis qu'il faut un avocat.
Bah, on va passer aux questions. Je crois que j'ai plus de questions sur les États-Unis, donc on va passer aux questions que les auditeurs m'ont posées sur Instagram. Alors déjà, il y a celle de Yop qui nous demande qu'est-ce qu'un avocat et pourquoi.
Bah, j'ai répondu pour t'éviter de dire des bêtises et pour sauvegarder tes droits. Moi, j'ai déjà eu le cas aussi d'un client qui était tellement stressé, il a reconnu un truc, mais qui était sorti du contexte. Hors du contexte, on aurait dit un psychopathe. Dans le contexte, c'était tout à fait normal. Voilà, donc là, l'avocat est un garde-fou. Il est là pour prendre les coups à votre place. Il est là pour vous canaliser, pour vous déstresser et pour aussi, bah voilà, checker que vos droits ont été respectés, s'il y a des nullités de procédure, parce qu'on va pas se le cacher, 50% des cas où on obtient, entre guillemets, l'innocence du client, enfin ça relaxe ou un non-lieu, etc., c'est des nullités de procédure. Voilà. Donc, un avocat est un vrai garde-fou. Donc, oui, un avocat est important. Il empêche de dire des bêtises. Surtout à l'audience aussi. Voilà. Et pareil, là, à chaque fois, vous allez vous dire, mais elle parle qu'en défense, alors que en ce moment, je défends plus de victimes que d'auteurs. Mais même quand vous êtes victime, c'est important d'avoir un avocat, parce qu'il saura vous dire comment ça va se passer, le temps de procédure, quels sont les risques, etc. Comment présenter une version cohérente, comment organiser votre récit. Et aussi, bah voilà, pour prendre les coups à votre place, clairement, parce que quand on est victime, c'est pas facile non plus face à la justice. Donc oui, Yop, un avocat est important.
Ça te convient, Yop? Une autre question des auditeurs, on a une question du scénario du pire, super podcast au passage, qui demande comment se passe une journée type dans la peau de Clémence, avocate.
Il n'existe pas de journée type. Chaque jour est différent. C'est d'ailleurs un avantage de ce métier, mais aussi un inconvénient, puisqu'on a du mal à prévoir sa vie. C'est-à-dire que moi, je peux travailler des dossiers comme ça, avoir des jours où j'ai pas spécialement de travail à faire sur mes dossiers, des jours où j'ai des coups de bourre parce que je viens d'être saisie à la dernière minute par un client. Je peux aller faire un rendez-vous client, voir un client en détention. Je peux gérer des appels de clients potentiels qui veulent mandater un avocat. Je peux aller en audience. Donc aucune journée ne se suit et ne se ressemble, et voilà, c'est un avantage et un inconvénient, l'imprévisibilité. Mais on s'ennuie jamais.
Bah c'est cool, un peu comme une podcastrice.
Podcastrice. Oula, podcasteuse, j'ai du mal. Ma chérie. Parce qu'on dit podcasteur.
Ouais, podcasteur. Une question du GOAT. Quelle est la procédure dont tu es la plus fière?
Alors, elle est compliquée comme question. Je dirais que j'ai pas encore assez de recul pour avoir amené des affaires à leur terme et dire que j'en suis fière, puisque j'ai beaucoup de clients qui en sont au stade des plaintes, ce genre de choses. Donc je pourrais dire peut-être en 2-3 ans, je suis très fière de celle-ci parce qu'elle n'était pas gagnée et je l'ai amenée jusqu'au procès, on a eu une condamnation. Par exemple, ce client, je l'ai fait acquitter. Mmh. Pour l'instant, c'est pas le cas. À l'heure actuelle, je dirais que ce dont je suis plus fière, c'est d'avoir participé au procès des attentats de Paris. Alors, moi, je remplaçais une consoeur pendant tout le procès. Donc, j'ai vraiment assisté à chaque minute, à chaque seconde de ce procès. Je faisais des comptes rendus. Et voilà, c'est quand même le procès du siècle. Alors, j'en pense ce que j'en pense en mon fort intérieur. Il n'a pas été exemplaire sur certains points. Mais voilà, c'était quelque chose quand même de participer à ça et de pouvoir faire partie de cette machine judiciaire-là. Et à seulement un an de barre, c'est assez rare de participer à un gros procès comme ça. Ou sinon je citerai que j'ai adoré mon travail avec les présidents d'assises, même si je n'étais pas avocat à l'époque. Mais ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Ça m'a moins mis en opposition par rapport aux magistrats aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens comme eux qui étaient vraiment impartiaux et qui étaient profondément humains. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience là aussi, avoir pu y participer. Mais je reviendrai dans 2 ans pour vous dire quelle procédure j'ai été la plus fière. Voilà.
Ça marche. À dans 2 ans. On a une question d'Alcide. Je pense qu'on a un petit peu répondu à travers cet épisode, mais je la pose quand même. Comment ça se fait que 2 personnes qui se font juger pour le même délit, par exemple trafic de stupéfiants, par exemple dans le 9-2, il va prendre 2 ans, à Nantes, l'autre va en prendre 4.
Alors, il y a plusieurs raisons. Donc déjà, j'ose croire qu'il y a la personnalisation de la peine. Je n'ai cessé de te parler par rapport à l'histoire de la personne, etc. J'ose le croire, malheureusement. C'est compliqué pour beaucoup de magistrats de leur faire entendre que les gens ne sont pas des numéros de dossier des êtres humains. Voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est un peu ce que je fais tous les jours. Il y a aussi malheureusement une question qui est celle de la politique pénale. Voilà, on sait très bien que il y a des chiffres à atteindre, que ce soit en termes de taux de condamnation, en termes d'affaires. C'est pour ça d'ailleurs des fois que t'as des affaires qui sont classées sans suite alors qu'elles sont constituées en soi. Parce qu'il faut pas augmenter les chiffres de l'insécurité, de la délinquance en France. Et il y a aussi la question de la politique propre à la juridiction. Par exemple, on sait très bien, avec mes confrères, qu'il y a des juridictions. C'est très compliqué si on est devant elles. Clairement, il y a des juridictions, on prend cher en première instance. Et si on fait appel, on appelle ça les chambres d'aggravation. Voilà. Alors que, en fait, il n'y a aucune uniformisation de des peines et de la politique pénale sur le territoire. En réalité, tu peux être jugé à Aix, tu prendras 3 ans. Tu peux être jugé à Paris, tu prendras 4 ans. Tu peux être jugé à Versailles, tu prendras 10 ans. Il n'y a aucune harmonisation, dirons-nous.
Ok, d'accord.
C'est un peu au petit bonheur la chance, malheureusement.
Ok. Et ma dernière question. Qui n'a rien du tout à voir avec le sujet, mais plutôt avec toi. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas fait avocate? Enfin, juste de ce que tu m'as dit, comme tu savais pas trop quoi faire, etc. Qu'est-ce que t'aurais aimé faire là, plutôt, sinon, aujourd'hui, un autre truc qui t'aurait plu?
Je sais pas. Non, clairement.
Je sais toujours pas.
Voilà, le métier est un peu une désillusion quand on rentre dedans, mais je suis passionnée par ce métier en lui-même. C'est ce qu'il y a autour qui ne me plaît pas. Maintenant, j'ai eu un autre parcours. Moi, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dans la vente très longtemps. J'ai été responsable de boutique. J'ai travaillé dans la vente de luxe. Enfin voilà, j'ai eu ce parcours-là. C'était sympa, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Maintenant, je sais pas, des fois, il y a des trucs qui me traversent l'esprit. J'avais aimé travailler dans le parfum, dans la vente, j'aurais bien aimé faire du parfum. J'aime bien la décoration d'intérieur. J'adore le yoga, voilà. Des fois, je me dis, on va faire un petit projet de reconversion. Mais en réalité, il y a jamais rien jusqu'ici qui m'a fait vibrer comme le métier d'avocat.
Podcastrice?
Parce que... on commence toutes les deux à faire pas mal d'épisodes quand même. Bah on a encore en stock à faire. J'aime beaucoup, mais voilà, c'est pour moi ça fait partie du plaisir, ça fait partie de des loisirs, des compléments. Mais jusqu'ici rien m'est venu. Alors des fois je me dis peut-être qu'à terme, un jour j'entrerai dans la magistrature, je ferai la passerelle. Et en même temps je me connais, je suis quelqu'un d'assez entier, d'assez idéaliste. Je suis pas sûre que je supporterai toutes les contraintes qu'ils ont et au final de pas pouvoir rendre vraiment la justice parce qu'ils sont tenus par les politiques, etc. Non, il y a rien qui me vient, mais des fois j'y réfléchis, hein. Mais c'est le problème quand il y a rien qui te vient.
Flic.
Si on avait autre chose derrière. Non, jamais. non, j'ai abandonné ce. Mais en fait, parce que voilà, tes auditeurs vont se dire que je leur ai cassé du sucre tout le long sur eux. Mais je suis aussi très consciente de leur réalité, qu'ils ont très peu de moyens et qu'il y a tout cet aspect hiérarchique qui ne me correspond absolument pas. Où au final, ils sont rentrés pour une question et enfin pour des raisons et ils peuvent pas exercer comme ils l'entendent. Et je pense que c'est source de beaucoup de frustration et de beaucoup de dépression dans ces milieux-là aussi. Donc il y a en fait que le métier d'avocat où je pense si tu arrives à t'en sortir en étant individuel, ce qui est très très dur. Moi je suis encore en phase d'avoir des difficultés à me payer. Je pense qu'il y a que le métier d'avocat où tu peux encore avoir tes convictions et te battre pour les causes qui t'animent et peut-être faire changer à ton petit niveau les choses. Parce que c'est la somme des petites choses qui changent une société au final. Si on n'avait pas eu Gisèle Halimi qui était une immense avocate, le viol ne serait jamais devenu un crime par exemple. Et l'avortement n'aurait jamais été dépénalisé. Donc, c'est la somme des petites choses et à mon petit niveau d'avocate non connue et sur mes petits dossiers qui changent les choses.
Incroyable. Bah, non, là, tu es passé sur le podcast, tu es famous. famous as fuck.
Je pense que, alors, tu vois, je reviendrai sur Hervé Temming, qui était vraiment mon modèle, qui était d'une humilité incroyable, et je pense que je serai toujours comme lui. Il avait passé du temps à discuter avec moi, alors que franchement, j'étais rien, hein, voilà, une étudiante de fac. Vraiment, j'étais personne. En plus, je vivais même pas à Paris à l'époque. Il m'avait dit, le seul conseil que je peux vous donner dans cette carrière, c'est de ne jamais être sûr de vous. Le jour où vous êtes sûr de vous, donc où tu commences à avoir de l'écho, il faut arrêter parce qu'on devient un mauvais avocat. Et je pense que je garderai toujours ça en tête. Et c'est aussi dans ma personnalité de, voilà, de chercher la perfection et de savoir que je ne vais jamais l'atteindre et de jamais être totalement satisfaite et de toujours demander plus de moi. Donc je pense que jamais je me considérerai comme famous ou comme ayant accompli quelque chose d'incroyable. Je serai toujours au contraire dans le doute et à vouloir m'améliorer parce que c'est aussi ça qu'il faut offrir à ses clients.
Non mais moi je trouve que c'est bien ce que tu fais, tu mériterais à être connue, hein. C'est bien ce que tu fais, j'aime bien ta vision, comment tu t'occupes de tes clients et ce que tu apportes à la société et tous les messages que tu portes dans ce podcast par rapport à la profession, et etc. etc. Et je te souhaite d'être une riche avocate.
Merci beaucoup. Et puis merci à toi de me donner cette tribune quelque part et cette opportunité de mieux faire connaître mon métier, de le faire peut-être un peu plus aimé, parce que c'est vrai qu'on est pas mal détestés, les avocats en France. Il y a beaucoup de clichés sur nous.
Oh, après les flics,
Oh, quand même. J'espère que ça aura permis à tes auditeurs de peut-être s'ouvrir l'esprit sur cette profession, de se départir de certaines idées reçues et voilà, de mieux comprendre notre métier aussi, ses implications et comment marche la justice en général. Et puis, d'ailleurs, s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à te les envoyer.
Sur Spotify.
Et je répondrai avec grand plaisir dans un autre podcast, peut-être.
Vous pouvez m'envoyer vos questions sur Spotify, parce que maintenant, on peut laisser des commentaires sous Spotify. Sinon, si vous n'êtes pas sur cette application, vous pouvez m'envoyer
sur Insta.
Un mail, un DM, ce que vous voulez. Et puis peut-être on fera un épisode 2 de toutes vos questions, parce que sur Instagram, j'ai pas non plus beaucoup de monde. Donc, j'ai pas eu beaucoup de questions. Là, j'ai eu que ça, quoi, comme question. Vous étiez un peu timide, justement. Je sais pas pourquoi, mais j'espère que vous aurez appris des choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses avec cette interview, qui est très longue, mais je pense qu'elle est très utile aussi. Donc, prenez le temps.
Puis je pense qu'ils auront vu qu'il y a des avocats qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui ne sont pas dans le cliché bourgeois et qui sont très ouverts. Donc, ils n'hésitent pas. Voilà.
Qu'il y a des jeunes aussi. Je crois que tu m'avais dit, c'est mieux de choisir un jeune avocat. Il va mieux porter ta voix, tu vois, genre de plus faire confiance aux jeunes parce qu'ils galèrent.
Un jeune indépendant, comme je t'expliquais dans les cabinets... Oui. Voilà, il y a un roulement de dossiers incroyable et d'honoraires. Donc en fait, le dossier, alors je veux pas dénigrer mes confrères, mais peut un peu moins compter que pour un jeune avocat qui a pas des masses de dossiers et où ses dossiers, c'est ses bébés quelque part, même pour les clients relous. Voilà. Donc clairement, un jeune avocat indépendant, il a pas des masses de dossiers. Généralement, il va vraiment se battre pour vous. Enfin, moi, c'est ma vision. Encore une fois, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu monter mon cabinet, parce qu'à un moment, j'en pouvais plus de voir ces dossiers oubliés sur un coin du bureau, c'est de voir des délais passés parce que on n'avait pas bossé dessus, de voir des opportunités de défendre qui étaient pas faites parce que justement, on n'avait pas le temps de le faire, qu'il y avait trop de dossiers. Voilà, il y a tout ça.
Eh ben, c'était super. Je suis trop contente que cet épisode sorte. Alors, j'espère qu'il plaira à tout le monde. Merci à toi d'avoir participé, hein, et de bientôt participer à un épisode avec moi et d'autres même, encore, ça serait trop bien.
Merci à toi pour ton invitation et voilà, d'avoir permis que je m'exprime, cet échange informel pour un peu désacraliser la chose.
C'était trop bien.
Et faire mieux connaître le métier et le droit.
Vous entendrez sûrement Clémence raconter une histoire. Très bientôt.
Très bientôt.
Merci à toi, Clémence.
Merci, Vanille.
Et merci surtout à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode hors série. Si vous aimeriez que j'en fasse d'autres, vous pouvez me le dire directement dans les commentaires sur Spotify ou sur les réseaux Et pour vous parler des réseaux, déjà rejoignez-nous sur Instagram, ce serait un plaisir. Il se passe beaucoup de choses sur Instagram, je donne beaucoup de nouvelles, ce que je fais pour le podcast au jour le jour. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch parce que tous les dimanches, en général, tous les dimanches, je fais un live où des fois on traite des affaires. Par exemple, la dernière fois, on a parlé d'Omar Haddad en live, on a regardé des documentaires ensemble, on a réagi dessus, etc. Et c'est super cool de faire ça ensemble. Toutes les affaires que je ferai pas dans mon podcast, en fait, je les fais en live. Donc, rejoignez-moi là-bas, c'est sur Twitch. Je m'appelle C'est Creepy sur Twitch. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens de mes réseaux Instagram, Twitch, mon Patreon, dans la description, ainsi que les coordonnées de Clémence. Avant de vous quitter, je tiens aussi à vous préciser que en juillet et en août, il n'y aura pas d'épisode public. On prend une petite pause, enfin, je prends une petite pause, mais je continuerai de poster une fois par mois un épisode sur Patreon. Donc voilà, si jamais vous avez envie de continuer d'écouter C'est Creepy cet été, sachez que vous avez un petit stock qui vous attend sur Patreon. Il y aura une dizaine d'épisodes à écouter cet été. Donc voilà, 10 exclus, super intéressantes, super longues pour la plupart. On est sur des épisodes de plus d'une heure. Donc voilà, vous avez cette option si jamais je vous manque cet été. J'arrête d'ailleurs de vous poster des extraits ici parce que apparemment ça vous énerve plus qu'autre chose. Donc, vous êtes sûrement pas au courant que j'ai sorti un épisode sur Patreon. Le volume 3 d'Histoires vraies et terrifiantes où je raconte des histoires qui sont arrivées à des gens. Des vrais gens, des vraies histoires, des trucs super creepy, des rencontres super stressantes. Là, l'épisode est un peu long donc je vais pas vous mettre l'extrait. Mais j'ai pour but de vous mettre les extraits des prochains épisodes Patreon directement à la fin de mes épisodes publics. Comme ça, ça ne gêne plus personne d'avoir des extraits par-ci par-là sur le flux. Voili voilou. Et sur ce, Clémence, t'es prête ?
Oui.
On vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy. T'es encore là ? Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy ? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balles à blanc, en fait.
Ok.
C'est pour faire peur. Ah, mais...
je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce que ça peut être. Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie. Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
Quelle indignité.
Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Ed Gein, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple. Tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite pour plus d'histoires bien...
creepy.